18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour deux heures d'information, d'analyse, de débat avec nos invités. C'est votre grand journal du soir. À la une, Didier Gayégué, le président de la Fédération de patinage, se défend face aux accusations. Pour être démissionnaire, il faudrait avoir commis une faute. Or, je n'estime pas en avoir commis. C'est à la une de votre journal, Sébastien Krebs. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Et à 18h20, justement, à ne pas manquer, mon invité, Didier Gayégué, a accepté, après sa conférence de presse du jour, de nous en dire plus. Il répondra donc à mes questions pour Europe 1. Seule la moitié des Français soutient Mila et le droit au blasphème. Comment comprendre ce sondage, cette enquête d'opinion qui montre que la France est bel et bien divisée en deux? On en débat avec les grandes voix à 18h30 et puis 19h30, un joueur de blues à nos côtés. D'ailleurs, jusqu'à 20h, le studio va se transformer en boîte de jazz. Allez, je ne vous dis que ça, on aura reconnu Michel Jonas en tournée avec un nouvel album depuis la fin de l'année déjà. Votre grand journal du soir pour écouter ensemble Le Monde Changé. C'est parti jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Je suis sali par des minables qui ne connaissent ni mon travail, ni l'homme.
La contre-attaque et les mots crus du patron du patinage français, Didier Gayégué, dénonce les salauds, les opportunistes et une ministre des sports, je cite, moralisatrice.
Il dit avoir découvert les cas d'agression sexuelle dans la presse et ne reconnaît aucune faute.
Le monde du sport brise le silence. À Angers, le président du club de football est en garde à vue pour agression sexuelle.
Des négligences dans la détection de la radicalisation. Première conclusion de la commission d'enquête parlementaire lancée après l'attentat de la préfecture de police.
Malgré une multiplication de signes, nous avons constaté une accumulation de dysfonctionnements.
Dans ce journal également, la politique d'Emmanuel Macron profite-t-elle seulement aux classes moyennes et supérieures? C'est ce qu'affirment les économistes de l'OFCE.
Les victimes du coronavirus et même les morts, majoritairement des plus de 60 ans, à la santé déjà fragilisée.
Et puis on en parle depuis si longtemps, ça y est, le central de Roland-Garros à son toit.
Ce toit va nous donner de nouvelles possibilités pour la programmation et pour des conditions de jeu qui seront homogènes.
Corinne Boulou nous fera la visite tout à l'heure. La Bourse de Paris en hausse ce soir de 0,85% à 5 985 points.
Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie. Bonsoir
à tous. La couleur
du
ciel demain.
Bleu, bleu avec beaucoup de jaune parce que demain c'est une belle journée qui nous attend avec du soleil sur quasiment toute la France. Les températures elles continuent de baisser avec de gelées matinales. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
C'est dégueulasse, je suis sali. Voilà, c'est un des termes utilisés tout à l'heure par le patron de la Fédération française des sports de glace, Didier Gayégué. Il a tenu une longue conférence de presse pour, dit-il, rétablir la vérité après les nombreux appels à la démission et les cas d'agression sexuelle qu'il est accusé d'avoir couvert.
Christophe Lamarre, bonsoir. Vous avez
bonsoir.
Suivi pour nous son intervention longue. Hein. Didier Gayégué n'y est pas allé par quatre chemins.
Et Didier Gayégué joue d'abord la surprise. Il s'étonne de voir autant de journalistes dans une salle sombre et exiguë. Une feinte en réalité. Il sait très bien que l'affaire est grave et d'importance. Il s'agit seulement d'amadouer le public. La suite ne trompe personne effectivement. Didier Gayégué ne cédera pas sur la gestion du dossier Gilles Bayer, soupçonné de viol et d'agression sexuelle. Il rejette toute responsabilité. Il n'était au courant de rien.
C'est fait. Je les ai découverts pour 90% d'entre eux par la presse et par un livre. Ils sont affreux. Ils sont inadmissibles.
Le président refuse d'endosser le rôle de celui qui a couvert des abus sexuels. Il pointe du doigt la responsabilité d'anciens ministres Marie-Georges Buffet et Jean-François Lamour au sport, Jacques Lang à l'éducation nationale, coupable selon lui d'avoir remis Gilles Bayer dans le circuit. Le président attaque ensuite ceux qui savaient et qui n'ont rien dit.
Tout le monde savait. Tout le monde. Mais tout le monde savait quoi? Que des jeunes filles étaient violées? Mais que diable, ceux qui savaient n'ont-ils pas dénoncé ces faits? Il est bien trop facile de venir baver sur les plateaux de télévision aujourd'hui et dire que tout le monde savait et n'avoir rien dit avant.
Didier Gayégué reste inflexible, il ne démissionnera pas. Il attendra la fin de l'enquête administrative diligentée par le ministère des Sports pour se positionner.
Christophe Lamarre du service des sports d'Europe 1.
Et Didier Gayégué qui répond à mes questions ce soir pour Europe 1. Il est mon invité juste après ce journal.
Et la pression politique est encore montée d'un cran. Aujourd'hui, jusqu'au Conseil des ministres, Didier Gayégué a une responsabilité Moral a fait valoir la porte-parole du gouvernement, le gouvernement qui soutient les demandes de démission. Mais au-delà du patinage, ce mouvement de libération de la parole est-il en train de toucher l'ensemble du monde du sport? Le football est à son tour secoué.
Le président du club d'Angers, club de Ligue 1, est en garde à vue.
François Coulon, vous êtes sur place. Saïd Chaban est accusé d'agression sexuelle.
Oui, c'est une salariée du club qui a déposé plainte le 7 janvier pour agression sexuelle commise par une personne abusant de son autorité. Le président Saïd Chaban lui aurait à plusieurs reprises touché les fesses, les seins et les parties intimes. Les deux autres victimes présumées sont deux anciennes salariées du SCO, entendues par la police judiciaire au cours de l'enquête d'environnement. Elles ont dénoncé les mêmes agressions et ont porté plainte à leur tour. Éric Bouillard, procureur de la République d'Angers.
Les trois plaintes concorde sur le mode opératoire utilisé par l'auteur. Il s'agit de l'usage de la surprise et peut-être même d'une certaine contrainte parce que c'est quelqu'un qui représente véritablement l'autorité et qui va surprendre ses victimes pour leur toucher les parties intimes. À des moments où elles sont seules en présence de l'auteur, c'est la répétition des victimes qui nous permet de retenir des charges sérieuses.
Quelles étaient les fonctions des plaignantes?
Une hôtesse, une secrétaire administrative, une chargée de clientèle. Donc on n'a pas de profil particulier de ce côté-là.
Alors les faits se seraient déroulés en marge de réunions ou de matchs de football. En novembre dernier, c'était à l'occasion d'un déplacement de l'encadrement de l'entreprise. Dans un communiqué, le président Chaban conteste formellement toutes les allégations portées contre lui. Sa garde à vue, entamée ce matin à 7h30, se poursuit dans les locaux de la police judiciaire d'Angers.
François Coulon en ligne d'Angers pour Europe 1. L'agression d'une surveillante de prison attaquée au couteau hier après-midi par un détenu qui l'a blessé au visage. Ses collègues de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas se sont rassemblés ce matin en soutien.
Comment mieux détecter les individus radicalisés au sein des administrations? La question est posée et pour cause depuis l'attentat de la préfecture de police de Paris.
Et les députés y travaillent depuis 4 mois. La commission d'enquête parlementaire lancée vient de faire un premier point d'étape. Son président Éric Ciotti pointe des faiblesses à tous les niveaux.
Nous avons constaté une accumulation de dysfonctionnements qui ont fait que Michaël Harpon, malgré une multiplication de signes qui, à bien des égards, aurait dû être prise en compte et aurait dû faire en sorte que l'habilitation que détenait depuis 2003 Michaël Harpon, puisqu'il maniait des données extrêmement sensibles, lui soit immédiatement retirée et conduise de ce fait à son départ immédiat de la préfecture de police. Nous estimons également que la formation sur la détection et la prévention de la radicalisation est insuffisante. Nous formulerons dans le rapport naturellement des préconisations, sans doute vers une réorganisation profonde de la préfecture de police.
Le député Les Républicains Éric Ciotti avec Jean-Gabriel Bourgeois à la commission d'enquête rendra son rapport le 7 avril.
Il est 18h06 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Nathalie Lévy.
Avec cette question, Emmanuel Macron gouverne-t-il pour les riches? Une étude publiée par l'OFCE, en tout cas, va remettre de l'eau au moulin dans ce débat. Hein.
Bonsoir Carole Ferry.
Bonsoir.
L'OFCE, donc, c'est un think tank d'économistes. C'est ce think tank qui a étudié très précisément l'impact des mesures de baisse d'impôts qui s'appliquent cette année. Conclusion, ceux qui en profitent le plus, ce sont les classes moyennes et supérieures.
Oui, alors ce gain de pouvoir d'achat va quand même profiter à 70% des ménages français, hein, selon l'OFCE. Mais les très grands gagnants, ceux qui vont le plus en profiter, se situent au-dessus du niveau de vie médian. En clair, ce sont les classes moyennes supérieures. Ce sont elles qui vont le plus profiter des 5 milliards de baisse d'impôts sur le revenu ou de la baisse de la taxe d'habitation. Et ce que pointe en parallèle l'OFCE, c'est que 15% des ménages, les plus modestes, vont eux voir leur niveau de vie amputé par les réformes des allocations chômage, des allocations logement. Certains pourraient même perdre jusqu'à 45 euros en moyenne sur l'année. Le gouvernement a immédiatement réagi à cette étude, accusant l'OFCE de ne pas tenir compte de l'ensemble des mesures prises depuis le début du quinquennat. Les mesures du plan pauvreté, par exemple, qui offrent des petits déjeuners gratuits dans les écoles, ou la réforme 100% santé, qui favorise l'accès gratuit aux soins. Bercy rappelle aussi la revalorisation de la prime d'activité, qui a élargi l'assiette des bénéficiaires, ou encore la baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Selon les calculs du gouvernement, cette politique devrait entraîner cette année une hausse du pouvoir d'achat des plus modestes de 2,3%.
Les précisions de Carole Ferry du service économie d'Europe 1. La politique, c'est aussi ce comeback, le retour d'une éléphante, comme on dit chez les socialistes. Catherine Trottmann sera candidate, finalement tête de liste dans la course à la mairie de Strasbourg. Elle qui a déjà remporté deux fois la course donc à la mairie de cette capitale alsacienne en 89 et 95. Nous serons sur place dans le journal de 19h.
Et bien, Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h des informations précises sur le coronavirus. Quels sont les profils qui sont les plus risqués?
Et puis Roland Garros, même sous la pluie, ça y est, le central a son toit rétractable et Corinne Boulou l'a vu pour nous.
Votre grand journal du soir, 2 heures d'infos jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h10 sur Europe, par la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Le coronavirus continue d'avoir de lourdes conséquences à travers le monde et de susciter, Sébastien, l'inquiétude du monde économique.
L'épidémie ajoute une nouvelle dose d'incertitude, prévient la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. Aujourd'hui, Airbus a dû mettre à l'arrêt son site d'assemblage en Chine, à Tianjin. La compagnie hongkongaise Cathay Pacific, en difficulté, demande à ses 27 000 salariés de poser des congés sans solde. Et puis au Japon, 3 700 passagers d'un bateau de croisière se retrouvent confinés en quarantaine pour 2 semaines. 10 cas ont été détectés sur le navire.
Alors en Chine, justement, le bilan humain, il approche les 500 morts désormais. On n'en sait plus sur le profil de ceux qui ont succombé au virus, n'est-ce pas Virginie Salmen?
Oui, alors le patient le plus jeune avait 36 ans, le plus âgé 89 ans. Mais on peut dire que la grande majorité, 80% des victimes, sont des personnes âgées de 60 ans ou plus, qui avaient déjà des problèmes de santé, notamment diabète et hypertension. Aucun enfant n'a succombé au virus. En ce moment, en Chine, une petite fille de 9 mois contaminée est en train de guérir. Alors parmi les 492 morts de ce coronavirus, il y en a une centaine qui avaient entre 36 et 60 ans. On ne sait pas grand-chose de leurs antécédents médicaux, mais les chercheurs français de l'Institut Pasteur nous disent qu'il est courant dans une épidémie comme celle-là ou même lors d'une grippe que des patients qui n'étaient pas malades présentent une vulnérabilité inexpliquée. Ce nouveau virus est beaucoup moins virulent que le SRAS, il faut le préciser. Le taux de mortalité n'est que de 2%. Pour vous donner une idée, il était de 10% pour le SRAS et même de 35% pour le coronavirus MERS, épidémie qui est toujours en cours au Moyen-Orient.
Voilà, âgés, souffrant de problèmes de santé, ce que l'on sait des victimes de l'épidémie. Merci beaucoup Virginie Salmen. Alors on parle beaucoup de ce coronavirus, Sébastien, mais en France en réalité, c'est la grippe encore elle qui tue.
Oui, 26 morts depuis le mois de novembre, dont 3 enfants de moins de 15 ans. L'épidémie s'étend très vite, elle touche tout le territoire. On rappelle les consignes, on se lave les mains le plus souvent possible.
Et puis image à peine croyable, aujourd'hui même, un avion s'est brisé en deux tout à l'heure à son atterrissage à Istanbul. Bilan absolument miraculeux, hein. Tout le monde est bel et bien vivant.
Ouais, il y a tout de même 52 blessés parmi les 177 passagers qui se trouvaient à bord de ce vol en provenance d'Izmir. Le fuselage s'est coupé en deux et a pris feu après une sortie de piste. Accident vraisemblablement lié à de fortes pluies.
On va filer aux États-Unis. Ça fait 2 jours que les démocrates ont voté dans l'Iowa, mais toujours pas à ce stade de résultat définitif. Ça fait désordre.
Une pataquès surréaliste. Il manque encore 30% des résultats. La surprise créée par Pete Buttigieg, ce jeune maire de 38 ans, ouvertement homosexuel, qui semble arriver en tête, ça se passe presque inaperçu. C'est Donald Trump qui en tire le plus de bénéfices. D'autant, Xavier Yvon, vous êtes aux États-Unis, que le président américain sera vraisemblablement acquitté ce soir par le Sénat qui va mettre fin à la procédure d'impeachment.
Exactement, c'est le strike pour Donald Trump dans cette semaine parfaite. Lundi donc, les démocrates s'enfoncent tout seuls avec le chaos du vote dans l'Iowa. Hier, le sondage de référence donne le président américain au plus haut niveau depuis le début de son mandat, 49% d'opinion favorable. Et le soir même, il s'offre 1h30 d'auto-célébration en prime time avec le discours sur l'état de l'Union. Our economy is the best it has ever been. Donald Trump vante son bilan économique. Jamais l'Amérique ne s'est aussi bien portée. Il transforme ce moment d'ordinaire solennel en télé-réalité à sa gloire, avec remise de médailles en direct à un animateur radio ultra-conservateur, arrivée surprise d'un soldat en permission pour retrouver sa femme et son fils dans les gradins du Congrès, acclamation dans les rangs républicains. Il réclame, vous l'entendez, 4 more years, 4 ans de plus. Ça tombe bien, aujourd'hui, Donald Trump va pouvoir continuer sa campagne de réélection libérée du poids de l'impeachment. Avec son acquittement d'ici quelques heures, il aura eu un procès en destitution express sans témoignages embarrassants. Toutes les étoiles s'alignent à 9 mois de la présidentielle.
Xavier Yvon, en ligne et en direct de New York, le Sénat, donc il vote à 22h, heure française, ce soir. En Allemagne, la progression préoccupante de l'extrême droite et cette fois des élus locaux du parti conservateur, hein, celui d'Angela Merkel, ont pour la première fois fait alliance avec les nationalistes de l'AfD pour désigner un gouvernement régional. Ça s'est passé dans la région de Thuringe. La CDU demande de nouvelles élections. Nous serons à Berlin à 19h.
On change complètement d'univers. Roland Garros 2020, on s'en approche, aura un nouveau visage. C'est la fin des matchs interrompus par la pluie.
Ouais, quel feuilleton, ça fait des années qu'on en parle. Mais ça y est, bonsoir Corinne Boulou, bonsoir. Le cours central de Roland Garros. C'est un toit, vous l'avez vu?
Oui, effectivement, c'est un engagement vieux de 10 ans qui se concrétise aujourd'hui. Comme les trois autres tournois majeurs du circuit, Roland-Garros aura donc son toit rétractable en fonctionnement pour la prochaine édition et avec des éclairages si besoin. Fini sur ce court les matchs interrompus par l'obscurité ou par la pluie. J'ai donc pu voir en avant-première effectivement ce toit, ce fameux toit. En cas de pluie, eh bien, il pourra recouvrir en 15 minutes le court Philippe Châtrier et permettre de poursuivre donc les matchs. Et à partir des quarts de finale, eh bien, tous ces matchs auront lieu sur le court Châtrier. Comme l'a confirmé le président de la Fédération de tennis, Bernard Giudicelli.
Ce toit va nous donner de nouvelles possibilités pour la programmation et pour des conditions de jeu qui seront homogènes à partir des quarts de finale. Et vous savez combien nous sommes attachés au traitement et à l'équité sportive de notre événement. Ces 11 ailes, elles sont aussi l'écho à notre patrimoine subtil, qui est l'aviateur, qui a donné le nom à notre stade. Et aujourd'hui, on a ce résultat qui est incroyable.
Oui, c'est vrai que ces 11 ailes du toit sur lequel travaillent encore des ouvriers sont impressionnantes. Initialement, il était prévu donc pour l'édition 2021, mais finalement, il sera bien en fonctionnement dès cette année. Après une période de test de 2 mois, eh bien son inauguration est prévue le 23 mai, à la veille du coup d'envoi du tournoi.
Ouais, 24 mai au 7 juin, hein, le tournoi de Roland-Garros, hein, effectivement.
Merci Corinne Boulou.
Et on y sera radio partenaire.
Exactement, on y sera.
Officiel de Roland-Garros, encore une fois cette année, on y sera.
Vous mieux vaut tard que jamais hein, pour le toit, mais on y est arrivé. Merci beaucoup Corinne Boulou, merci à vous, merci Sébastien. L'info revient avec vous à 18h30. Anissa, une journée fraîche et ensoleillée demain.
Oui, alors si on était en plein Roland-Garros, on n'aurait pas eu besoin du toit là, parce que demain c'est vraiment une très belle journée qui nous attend. Un grand ciel bleu partout, du soleil sur quasiment toute la France. Alors attention tout de même hein, sur le nord, la région parisienne, les pays de la Loire. La journée va commencer comme ce matin avec des nuages bas, quelques brouillards, quelques grisailles qui vont se dissiper rapidement. Et puis sur le Languedoc-Roussillon, hein, si vous nous écoutez dans ce département, eh bien sachez que demain le vent va vous apporter des entrées maritimes. Vous avez l'habitude avec le vent d'autant, donc ça veut dire que vous aurez une journée assez humide avec peut-être quelques gouttes. Partout ailleurs, c'est très beau. Les températures sont en baisse avec des gelées même. Hein. Demain matin, moins 3 à Rodez, moins 2 à Aurillac, 0 à Manosque, Caen et Lyon, 1 degré pour Paris. Et dans l'après-midi, nous aurons 7 à 17 de Belfort à Biarritz.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec votre invité Nathalie Lévy.
Vous venez de l'entendre dans l'édition de 18h, le président de la Fédération de patinage Didier Gayaguet qui s'est défendu cet après-midi bec et ongle en conférence de presse face aux accusations de non-dénonciation de violences sexuelles. Il accepte de nous en dire plus, là, dans un instant, Didier Gayaguet est mon invité sur Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. Le patinage artistique français est secoué par les révélations d'agressions sexuelles. Le président de la fédération, Didier Gayaguet, s'est défendu cet après-midi en conférence de presse face aux accusations de passivité. Et il est ce soir votre invité.
Bonsoir Didier Gayaguet.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous répondre ce soir sur Europe 1. Vous êtes le président de la Fédération française des sports de glace. Vous avez parlé pendant 1h30, répondu aux questions des journalistes. Vous avez contre-attaqué, documents à l'appui. Vous reconnaissez des erreurs, mais pas de faute. Si vous n'êtes pas responsable aujourd'hui, qui alors est responsable?
Écoutez, le problème est simple. Il y a des faits qui sont connus depuis une semaine et demie. Une semaine et demie qui date de 30 ans. La fédération, elle ne peut pas être comptable de fautes majeures, scandaleuses même pour certaines. 30 ans après, c'est trop compliqué. Après, il y a ces jeunes filles. Enfin, pour moi, c'est toujours des jeunes filles parce que je les ai entraînées, je les ai dirigées. Enfin, je les aime bien. Ce sont bon, maintenant, ce sont des femmes. Elles ont eu leur vie touchée, peut-être même brisée. Et à partir de là, nous, on est. Enfin, je suis moi très, très, très triste, vraiment atterré de ce que j'ai appris il y a une semaine et demie.
Didier Gayaguet, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? Vous n'allez pas démissionner?
Madame la ministre a demandé une inspection générale qui doit se tenir à l'intérieur de la fédération. Moi, je considère que je n'ai pas commis de faute. Donc je veux absolument connaître les conclusions de ce rapport et que l'on me dise là où nous avons péché. Et en fonction du rapport, je prendrai les décisions qui s'imposent en fonction de ce rapport.
Mais Didier
Gayaguet, je précise simplement, madame, que la fédération des sports de glace n'appartient pas à Didier Gayaguet. Je ne fais que passer.
Mais Didier Gayaguet, dans l'œil du cyclone, les violences sexuelles, elles sont aujourd'hui un sujet majeur. On a vu la nouvelle pétition. Comment votre position est-elle tenable, Didier Gayaguet, la tête de la fédération, si vous souhaitez y rester ?
Moi, je suis quelqu'un qui est un homme honnête. Je suis un homme clean. Lire dans la presse que lorsque j'ai la malchance d'être sur une marche de podium avec deux autres personnes qui sont ou condamnées ou susceptibles de l'être, donc sur un podium, et lire que je suis que le podium des violeurs, ça me rend malade. Parce que ni moi, ni ma fédération, ni tous ceux qui sont autour de nous, et notamment les familles, ne méritent cette manière d'être traités.
Que vous dit votre entourage ? Que vous dit votre entourage aujourd'hui, Didier Gayaguet ? On vous invite quand même à y réfléchir, à quitter ce poste ?
Mais j'ai pas besoin de l'entourage pour y réfléchir, madame. Je suis pas totalement amnésique ou idiot. Je vois bien les difficultés que nous rencontrons. Je n'accepte pas la manière dont ma fédération, ses dirigeants, ses clubs, ses athlètes, ses médecins, ses kinés, ses entraîneurs, ses juges sont, et ses bénévoles sont salis. Je ne peux pas accepter ça parce qu'ils ne le méritent pas. Et moi, je serai le défenseur de ça au sein de cette inspection et j'en tirerai toutes les conclusions s'il s'avère que nous avons failli.
Deux questions
rapides. Il va falloir quand même être extrêmement fort pour le prouver.
Absolument. Didier Gayaguet, vous l'avez dit, je suis sali par des minables qui ne connaissent ni mon travail, ni l'homme. Qui sont ces minables aujourd'hui ?
Il y a un nombre de personnes non négligeables. Heureusement, je suis d'une génération où les réseaux sociaux m'apparaissent des cimes totalement inaccessibles à mon esprit, fort heureusement pour moi. Néanmoins, je reçois quelques courriers qui sont d'une violence inouïe. Moi, je sais ce que j'ai fait pour cette fédération. Je l'ai prise avec, au plan économique, 10 millions d'euros de trous. Je l'ai redressée. Aujourd'hui, elle a des fonds propres. Elle a un petit immeuble qui lui appartient. Elle a la possibilité d'organiser des grands événements internationaux. Et tout ça, ce travail, c'est moi qui l'ai fait. J'ai essayé de redresser la partie sportive. Nos athlètes, aujourd'hui, font des médailles aux Jeux Olympiques. Nous avons des titres de champions d'Europe et du monde, et ce, dans plusieurs sports. À partir de là, nous avons aussi œuvré sur ces domaines plus complexes que sont la malveillance, la maltraitance. Nous avons travaillé, j'ai demandé dès 2009 la séparation des vestiaires masculins et féminins. J'ai pris des décisions sur les disciplines d'expression où désormais les chefs de délégation sont féminins. Nous avons des kinés aujourd'hui, obligatoirement à deux, un homme, une femme. Nous avons pris contact avec l'association Colosse aux pieds d'argile. Nous travaillons, madame. Et tout ça est bafoué par certains. Alors, bon, je suis déçu de voir des garçons comme Gwendal Pesra tomber dans ce genre de choses. Ce n'est pas digne de lui. Et d'ailleurs, il devrait se rappeler ce que nous avons fait ensemble pour arriver à sa réussite.
Il veut votre poste à la tête de la fédération, c'est ce que vous dites aujourd'hui à Philippe Candelro ou à Gwendal Pesra, par exemple ?
Mais tout le monde a le droit d'avoir des ambitions politiques. Moi, ce que je constate, et notamment en ce qui concerne le premier, c'est que ça fait 10 ou 12 ans qu'on ne l'a plus vu dans une patinoire, si ce n'est pour aller faire un petit gala de temps en temps pour faire un petit cacheton. Le reste, c'est pas ça la fédération. La fédération, c'est aller chercher des jeunes, les aider, les faire progresser, aider les bénévoles, soutenir nos ligues qui font un travail incommensurable au développement de la pratique et aussi la direction technique nationale qui fait que nous avons des champions. Ça, c'est la fédération. Le reste, les
Didier
plateaux télé où on va baver sur... Ah, sur où on dit « on savait tout ». On savait tout. Et puis, si on savait tout, ben pourquoi on n'a pas dénoncé ? C'est trop facile d'aller baver sur les plateaux de télé. Gwendal s'est présenté à la présidence de la fédération. Et ben, il n'a pas été élu.
Didier Gayaguet, qu'est-ce que vous avez dit et est-ce que vous avez eu Sarah Abitbol ces jours-ci ? Que lui avez-vous dit ?
Non, je n'ai pas eu Sarah. Je pense que ce n'est pas le moment, ni pour elle, ni pour moi, de parler. Sarah, je n'ai aucun problème à la voir le jour où il faudra. Et si je suis là, ce sera toujours avec grand plaisir. Je regrette qu'une chose, c'est que, et son livre le décrit très, très précisément, un si long silence, 30 ans à ne rien dire, si ce n'est à son partenaire Stéphane Bernadis, à ne rien dire non plus à la Fédération. Donc moi, je ne peux pas être comptable des faits qui se sont produits il y a 30 ans et que j'ai appris il y a une semaine et demie. Ça, je ne l'accepte pas.
Merci beaucoup Didier Gayagué de nous avoir répondu ce soir longuement sur Europe 1. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec à suivre Nathalie Lévy.
Le débat des grandes voix, c'est l'heure, 18h30, 19h. Au programme ce soir, le droit au blasphème qui divise un Français sur deux contre. C'est ce que révèle une enquête d'opinion. On en débat avec vous et vos questions.
39-21 pour poser vos questions aux grandes voix. C'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Et la contre-attaque du patron du patinage français, vous venez de l'entendre sur Europe 1, Didier Gayagué, refuse toujours de démissionner. Il estime ne pas avoir commis de faute et dément avoir couvert le moindre cas d'agression sexuelle au sein de la Fédération des sports de glace. L'OMS a besoin de 600 millions d'euros pour lutter contre l'épidémie de coronavirus ces 3 prochains mois. Appel de fonds lancé aujourd'hui. 500 000 masques seront envoyés dans 24 pays. En France, les 6 patients atteints sont dans un état stable à l'hôpital. En Corse, les avions bombardiers d'eau luttent toujours contre les flammes, mais l'incendie est contenu. Il n'a pas touché d'habitation, mais a ravagé 1000 hectares de végétation. Les bons chiffres du e-commerce, le cap des 100 millions d'euros de ventes par Internet franchi en 2019, une hausse de 11% en un an. Le calendrier qui s'accélère chez Engie, un conseil d'administration extraordinaire convoqué demain pour décider du sort de la directrice générale Isabelle Cochet, la seule femme à la tête d'une grande entreprise du CAC 40. On en parle dans le journal de 19h. Et puis aux États-Unis, jour d'acquittement pour Donald Trump. Le Sénat s'apprête à voter ce soir l'acquittement du président américain et donc la fin de la procédure d'impeachment.
Merci Sébastien, l'info revient avec vous à 19h. Anissa, du côté du ciel, de la grisaille.
Oui, alors de la grisaille en tout début de journée. Attention, hein, je vous rassure, sur le nord, la région parisienne, le centre-val de Loire, vous allez vous lever avec des brouillards, des grisailles le matin, mais qui vont très vite se dissiper pour laisser place à un ciel bleu rempli de beaux rayons de soleil. C'est vraiment une journée très belle. Hein, demain, une belle journée d'hiver, très claire. Attention sur le Languedoc-Roussillon, le vent d'autant va vous apporter des entrées maritimes, donc là vous aurez peut-être droit à quelques gouttes. Les températures, elles baissent, moins 6 à la Chaise-Dieu demain, moins 1 à Mulhouse, moins 2 à Strasbourg pour le matin. Et au meilleur de la journée, vous aurez 7 à 17 degrés.
Europe 1.
Et c'est l'heure du débat des grandes voix, Nathalie Lévy sur Europe 1, avec autour de vous jusqu'à 19h ce soir, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir.
Avec des Français très partagés, on va commenter ça ensemble, des Français très partagés sur le droit au blasphème, ce droit de pouvoir critiquer une religion, selon un sondage IFOP pour Charlie Hebdo, publié aujourd'hui même au sujet de l'affaire Mila. Vous savez, c'est cette adolescente faisant l'objet de menaces après avoir critiqué l'islam. Le sondage a été réalisé 15 jours après. La jeune fille s'est exprimée hein, dans les médias et on découvre une France littéralement coupée en deux, divisée en deux.
Alors,
Charles Villeneuve.
Oui, pardon Gérard. Divisée en deux, mais avec des paradoxes, ça, oui. C'est étonnant. Si vous voulez, c'est moins clair. C'est vrai qu'il y a 50 pour, 50 contre, c'est vrai. Il y a une petite majorité de Français, 53%, qui soutient l'adolescente Mila. Et qui condamne à 56% les propos de Nicole Belloubet. Et pourtant, ils sont 68% à être d'accord avec l'avocat, vous savez, Richard Malka, quand il a rappelé que le fondement de la liberté de conscience n'est pas d'interdire la critique ou même l'injure contre une religion, mais de protéger la liberté d'expression.
C'est ça.
Alors voilà, je passe le relais à mes camarades pour qu'ils continuent.
Avec une autre phrase de Richard Malka qui a dû, Gérard Carrérou, vous interpeller. « Va-t-on mettre sous protection policière tous les esprits libres ? Ceux qui profèrent des menaces se promènent libres, eux. » Voilà où on en est aujourd'hui.
Oui, ben justement, moi je me pose la même question que Maître Malka. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit « on n'est plus dans cette république laïque que les gens de ma génération ont connue depuis les années 50-60. » On n'est plus tout à fait, on n'a pas encore complètement basculé, mais on n'est plus tout à fait dans cette même république. Et on est, et c'est terrible à dire, mais j'ai l'impression, je relisais il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai retrouvé dans la bibliothèque, le bouquin de Houellebecq, Soumission. J'ai l'impression, d'une manière d'une manière insidieuse qu'on s'est engagé dans le processus de la soumission. Parce qu'on ne peut plus dire un certain nombre de choses, ou qu'on ne veut plus dire un certain nombre de choses, comme 50% de Français qui trouvent, ou partie de ceux qui disent qu'on n'aurait pas dû aller si loin, que la petite Mila n'aurait pas dû, etc. C'est un moyen de dire, c'est une façon de dire, il faudrait quand même des accommodements, il faut se soumettre à un certain nombre de volontés parce qu'il y a une communauté musulmane de plus en plus importante, que la religion musulmane interdit un certain nombre de choses, etc. Et du coup, il y a une dérive, on se laisse aller à ces concessions au jour le jour. Et comme la garde des Sceaux, enfin écoutez, je terminerai là-dessus, enfin pour l'instant, la garde des Sceaux, qui elle doit incarner la loi, en plus cette femme, qui est une femme de qualité, qui a fait des grandes études, qui a été membre du Conseil constitutionnel,
agrégée de droit,
eh bien on a l'impression qu'elle ne connaît pas. Alors comme je me dis qu'elle connaît la loi, ce n'est pas qu'elle ne connaît pas la loi, mais elle fait comme si elle ne connaissait pas la loi. En disant qu'après tout, Mila aurait...
Mais peut-être qu'elle a un sens aigu de l'initiative juridique.
Oui, non, mais en tout cas, moi ça m'inquiète. Je suis comme Maître Malka, extrêmement... Je suis consterné de voir ces résultats.
Et on se souvient, Catherine Ney, enfin, on n'est pas très loin des événements de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais là, justement, d'ailleurs, c'est intéressant que ce soit le journal Charlie Hebdo qui demande cette enquête d'opinion, alors que ce droit au blasphème lui permettait d'étrier toutes les religions.
De tout dire, de tout écrire et de tout dessiner, bien sûr.
C'était pas toujours très drôle, mais enfin, c'était son droit. Et en tous les cas, il ne contrevenait pas à la loi, parce que la France est la première nation d'Europe qui a aboli le délit de blasphème dès la Déclaration des droits de l'homme. Bon. Mais maintenant, ce que l'on voit et qui est préoccupant, c'est que il y a une forme d'autocensure qui est en train de se créer dans la société. Et moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est lorsque Mila a tenu des propos, une gamine, de la façon dont un peu ordurier sur eux, qui était très désagréable, mais il faut dire qu'elle était elle-même maltraitée par un garçon qui l'a bousculée, qui l'a traitée de lesbienne parce qu'elle refusait ses avances. Et donc, à cet âge-là, elle a eu un coup de sang, un coup de boule, et elle a sorti des horreurs sur la religion, pas sur les musulmans, sur la religion. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que le premier réflexe du parquet de l'Isère, ça a été d'ouvrir une enquête préliminaire sur provocation à la haine raciale. Donc la justice elle-même, il y a non seulement Nicole Belloubet qui dit que vraiment c'est en atteinte à la liberté de conscience et que le droit de blasphème c'est fini, mais que la justice, alors elle l'a retiré. Donc vous voyez, la peur, moi je crois que depuis les attentats de Charlie Hebdo, dont on vient... hélas, de célébrer le cinquième anniversaire. Absolument. Il y a à la fois une peur et aussi une frilosité de la gauche de faire...
On a entendu Ségolène Royal, d'ailleurs, dernière aussi.
Non, mais pas seulement de la gauche.
Oui, frilosité, mais de la gauche, de... Bon, alors...
On y revient dans un instant, je ne voulais pas vous couper la...
Par culpabilité. Décoloniale, héroïsation sociale...
Surtout quand on entend le président de la République qui nous rappelle à quatre reprises les crimes de la colonisation,
etc. On n'a pas fini sur ce sujet, on se retrouve dans un instant, c'est promis, les grandes voix.
Europe 1, il est 18h39. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix autour de vous ce soir. Nathalie Lévy pour débattre, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Oui, c'est un débat évidemment depuis 15 jours qui agite, avec aujourd'hui désormais un sondage lié aux propos de Mila, cette jeune fille. Une enquête d'opinion qui montre quoi ? Eh bien que la moitié des Français est défavorable au droit de critiquer les religions. Et un enseignement de cette enquête d'opinion que je voulais vous soumettre, c'est quand même que les jeunes générations, les jeunes et les musulmans y apparaissent particulièrement hostiles à la liberté de blasphémer. C'est grave, non ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous faites allusion au sondage de l'IFOP.
Absolument.
Mais il y a aussi le baromètre de l'Observatoire de la laïcité que le journal La Croix dévoile aujourd'hui, qui est assez intéressant. C'est surtout, si vous voulez, il y a deux nuances. C'est que non seulement ça révèle un décrochage chez les plus jeunes, mais l'attachement à la laïcité dont témoignaient 70% des 18-24 ans dans le baromètre de l'année dernière a chuté de 9 points. Et manifestement, c'est le poids des réseaux sociaux qui joue là-dessus. et qui est expliqué dans l'Observatoire de la laïcité, parce qu'il y a quand même plus de 70% de Français qui continuent à croire aux valeurs de la laïcité.
Et oui, c'est quand même tout le paradoxe, encore une fois. Moi, je croyais qu'il fallait garantir même, le droit au blasphème dans ce pays.
Il y a quand même, effectivement, je pense avec tristesse que dans la jeunesse d'aujourd'hui, cette laïcité que les plus âgés défendent encore bec et ongles à chaque occasion pour la protéger, je pense que elle a un petit côté, je vais dire le mot, elle a un petit côté pour certains jeunes ringard. C'est un peu du passé, c'est pas la laïcité. D'abord, ils savent pas toujours exactement.
Mais parce qu'ils ne concrétisent pas ce qu'est
la
laïcité.
Oui, ils ne concrétisent. Si mais justement, il y a des occasions de le concrétiser. Et malheureusement, les attentats terroristes ont été une occasion de démontrer qu'il faut, si on veut que, alors c'est simple, où on veut la guerre civile dans notre pays, personne la veut quand même. Enfin, ou alors il y a quelques enragés qui la veulent. Mais si on veut la coexistence pacifique et le développement côte à côte des communautés, il faut que la laïcité soit prévalente. Il faut qu'elle soit non seulement maintenue, mais renforcée.
Oui, mais ça tient. Ça tient au chef de l'État de préciser un certain nombre de choses. Alors, manifestement, Nathalie, il ne le veut pas, il ne le souhaite pas à l'heure actuelle, parce qu'il considère que il définirait la laïcité sous la pression médiatique et par rapport à un fait comme celui de Mila. Mais en même temps, je crois qu'il ne veut pas politiquement ouvrir un nouveau front social parce que ses partisans eux-mêmes, dans le cadre de La République en Marche, sont très partagés. Vous avez une Marlène Schiappa qui est d'ailleurs souvent, moi, à mon sens, toujours très clair sur ses positions et qui a une ligne dure sur ce plan-là.
Dure et juste.
Vous avez un député comme Aurélien Taché, il ne faut pas oublier que justement, il avait stigmatisé le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui était contre le voile lors des sorties scolaires, etc. Et il l'avait qualifié de fournisseur d'arguments au Rassemblement national. C'est vrai que depuis, il s'est excusé. Et vous avez aussi l'une des porte-paroles de La République En Marche qui, elle aussi, était sur la même ligne que Marlène Schiappa. Oui.
Mais là, il est appelé de toutes parts, et notamment du côté des Républicains, que ce soit Christian Jacob, que ce soit Christian Estrosi, l'appel à se manifester sur la laïcité. Il ne va pas pouvoir y couper, Catherine.
Je pense qu'il ne parle pas parce que le « en même temps » n'est pas possible
sur ce sujet-là.
Et que lui-même n'est pas honnête avec ce qu'il pense. Voilà. Parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. S'il ne dit rien, c'est qu'il est gêné et qu'il a peur de... De toute façon, quoi qu'il dise, j'ai l'impression qu'il sera critiqué.
Oui,
et là, d'ailleurs, avant, il devait parler de la laïcité et de l'islam. Maintenant, il va parler, on a annoncé, sur le communautarisme, qui n'est pas tout à fait la même chose.
C'est une façon de se défausser.
Donc, il va aborder le sujet de manière biaisée.
La radicalisation et le communautarisme, et aussi les relations entre les organisations musulmanes et la République. Parce que là aussi, il y a un problème.
Surtout quand on voit les dirigeants des associations musulmanes, comme on l'a vu encore pour l'affaire Mila, prendre des positions, en tout cas certains d'entre eux, prendre des positions totalement inacceptables.
Et, pourtant, le communautarisme a été érigé en cause majeure par le gouvernement ces dernières semaines. Aurait dû y avoir un discours, il aurait dû y avoir une prise de parole. Là, en février, on n'est pas encore au bout, mais a priori, ça ne vient pas.
Non, mais vous savez, le macronisme déteste le manichéisme.
Exactement.
Moi aussi, sur certains points, il dit non, on ne peut pas être manichéen, c'est-à-dire blanc ou noir, non. Sauf que dans ce domaine-là, il y va de la survie de la République. Et la République française, à partir du moment où elle est maintenant constituée bien différemment de ce qu'elle était il y a 30 ou 50 ans, il faut que la laïcité soit la règle de vie et que le chef de l'État en soit le garant.
Je pense que l'on ne peut réparer que cette porcelaine très fêlée qu'est la France aujourd'hui que par une position très ferme sur la laïcité.
Absolument. Non, mais il le sait, à mon avis.
Il le sait, mais il disserte.
Il sait très bien qu'une partie de l'élection présidentielle 2022 se jouera là-dessus, comme s'est jouée une partie du Brexit et du refus des Anglais qui ont largué les amarres avec l'Union européenne à ce sujet aussi.
Allez, on se retrouve dans un instant. Les grandes voix, très inspirées évidemment sur ces sujets.
Europe 1, il est 18h47.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Et ce soir, autour de la table, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, Nathalie Lévy.
Oui, on reste évidemment sur cette question de la laïcité, l'islam, le blasphème, parce que véritablement depuis 15 jours et cette affaire Mila, ça fait énormément réagir. Et je me posais la question, je vous la pose du coup à vous les grandes voix, la droite là-dessus, les républicains, est-ce qu'ils n'ont pas un coup à jouer, entre non, mais... guillemets ? Allons-y, ils peuvent passer à l'offensive. Ce sont leurs sujets.
Oui, mais Nathalie, pendant longtemps, la droite, il faut le reconnaître, les républicains ne voulaient pas de la laïcité ni entendre parler de la laïcité. Aujourd'hui, ils sont devenus des partisans, évidemment, acharnés à la laïcité. Bah, donc, c'est un retour de politique politicienne et il faut faire attention parce que les Français...
Mais maintenant le coup. Hein.
Il le joue, oui,
Retailleau. Oui, Retailleau est très en pointe là-dessus.
Lui, il a toujours été.
Ciotti est en pointe là-dessus.
Il y en a plusieurs.
Je pense que vous avez raison, Nathalie. Vous avez raison de le souligner. Il y a un créneau. Moi, je pense qu'il y a un créneau.
À 6 semaines des municipales,
on a dit les Républicains se sont effondrés. On s'est moqué d'eux à juste titre. Ils ont fait 10 points aux élections. Bon, ils ont un terrain d'excellence qui pourrait être le moyen de revenir dans le jeu politique au plus haut niveau. C'est effectivement d'être sur le plan du régalien meilleur, si j'ose dire, qu'on ne l'est actuellement. Meilleur, ça veut dire avec plus
franc.
La fermeté des options et non pas essayer des atermoiements permanents. Et c'est là que je trouve que le président de la République manque. Je ne veux pas l'accuser de. Je ne veux pas aller jusqu'à dire qu'il manque de courage sur ce point. Mais je pense que, comme disait Catherine, peut-être qu'il, comme l'homme très intelligent qu'il est, il voit très bien le problème, mais il se dit si je prends des positions tranchées, je vais perdre un pan entier. Je vais peut-être capter tous ceux qui croient.
Gérard, quand tu as le parti même de ta majorité, si tu veux, largement majoritaire en plus à l'Assemblée nationale, qui est partagé, qui est divisé, il y a des lignes de partage quand même assez fortes, justement, au sein du parti. Et donc, évidemment, il hésite.
Mais bien sûr.
C'est l'une de ses hésitations.
C'est perdant-perdant pour lui. Catherine, je faisais référence à Guillaume, c'était Guillaume Pelletier. Non, mais parce que Guillaume Pelletier, il a interpellé Christophe Castaner, je me disais bien, ministre de l'Intérieur. Il lui dit, voilà, quand est-ce que vous éradiquez l'islam politique? Quand est-ce qu'on fait les choses? Quand est-ce qu'on n'accepte plus qu'une jeune fille de 15 ans soit menacée par les plus fanatiques et abandonnée par les plus lâches? Abandonnée par les plus lâches. Vous l'avez cité, la gauche tout à l'heure, les associations, où sont-elles aujourd'hui?
Mais je crois qu'elles ont peur parce qu'il y a ce climat de post-colonialisme et de voir que finalement ces enfants venus d'Algérie, leurs parents, parce que les premiers temps, les parents n'allaient pas à la mosquée et puis peu à peu dans les quartiers, ce que décrit très bien dans son livre, Monsieur Pupponi, qui est l'ancien maire de François Pupponi, qui raconte comment peu à peu dans les quartiers, ils ont affiché leur religion et que peu à peu ça a créé des réactions anti-musulmanes qui tournent après l'anti-islamique et les gens ont peur. Voilà la différence. Voilà. Alors je ne sais pas comment il va faire une loi pour lutter contre le communautarisme parce que le communautarisme maintenant il est installé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va dire, c'est très très difficile.
Oui, mais ça
on
veut
a
dire
perdu du
c'est
temps.
C'est bien pour ça que j'ai prononcé le mot de soumission, parce que bien on admet que le communautarisme étant installé, il faut composer avec lui. Et dans ce cas-là, c'est la République qui se met à genoux. Ou alors on dit ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, et il faut redresser là-bas. Voilà. Je ne suis pas sûr.
Problème est que les détenteurs d'un islam intégriste essaient maintenant de prendre le pouvoir.
Moi je crois qu'il en est parfaitement conscient. Le 3 février dernier, lundi dernier, devant le Conseil consultatif de coordination des Arméniens de France, j'étais au dîner, il a été quand même assez clair sur les dispositions qu'il souhaitait prendre et qu'il a annoncé vouloir en faire part aux Français relativement dans peu de temps. Maintenant, cela étant, ça fait 2 ou 3 fois qu'il en parle,
et que pour l'instant, il n'annonce rien. Exactement.
Notamment par rapport, si vous voulez, au ministère de l'Éducation nationale, et puis aussi aux lois de la République. Il a dit de toute façon qu'il serait extrêmement sévère, sauf que cet acte d'autorité, si vous voulez, évidemment se fait attendre pour des raisons qu'on peut comprendre, mais qui tardent beaucoup trop. Ouais. Mais moi, ce qui me paraît plus inquiétant, c'est que, il y a une sorte de phénomène idéologique qui est inquiétant, c'est l'abandon de tous les idéaux universaliste, oui. Manifestement.
Non, mais
et
c'est
ça,
une façon
justement.
De dire aux musulmans, viens, je vais te donner une gifle, et ils ne la donnent toujours pas, quoi. Or, en ce moment, il y a une vraie fracture qui se crée dans la société.
Enfin, il faut dire clairement, la charia n'est pas la loi de la République. Et quand on voit l'Institut Montaigne, qui avait fait sa grande enquête il y a 2 ans, où on voyait que parmi les jeunes musulmans, effectivement, presque les jeunes, je parle de ceux qui
30%.
Avaient entre 18, il y avait plus d'un tiers qui pensaient que la charia était au-dessus des lois de la République. Ce processus-là, il faut l'interrompre, ou alors, je vous dis, on va vers des lendemains qui déchanteront pour les, pour
cela
les habitants.
Étant, Gérard, il y a beaucoup de musulmans qui en sont parfaitement conscients, qui eux acceptent les lois de la République, sont intégrés dans le tissu social.
Mais c'est à
social.
Ceux-là, sur ceux-là qu'il faut s'appuyer.
Bien
en
sûr.
Tout cas, le président n'est pas prêt hein, sur un discours sur la laïcité. Un conseiller de l'Élysée là, le disait il y a encore quelques jours.
Ouais.
Il n'est pas prêt pour l'instant. Oui, sur ce sujet, c'est un engagement, certes, mais le travail ministériel est en cours. Ah, jusqu'à quand
bah alors,
on verra bien. Est-ce que les Républicains peuvent en profiter? En tout cas, à 6 semaines des élections municipales, ce sera évidemment un sujet qui sera largement scruté. Merci beaucoup, les grandes voix du mercredi.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Dévy.
Le rappel des titres, c'est Sébastien Krebs qui nous rejoint.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h et c'est avec Nathalie Dévy sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le programme jusqu'à 20h, Nathalie Dévy.
Avec Sébastien Krebs qui nous rejoint dans une petite minute pour revenir sur les propos du patron de la fédération, Didier Gayagué, la fédération de patinage, bien sûr, il se défend. Le match avec Gendel Pesra, champion du monde, vous l'entendrez, ils se répondront sur l'antenne d'Europe 1. 19h10, l'attentat de la préfecture de police de Paris examiné par les députés. Y a-t-il eu défaillance? Aurélie Herbemont pose la question à une députée en marche de l'Essonne. 19h20 demain en France, demain dans le monde, on sera aussi outre-Atlantique avec Didier François et puis à 19h30. Un invité exceptionnel dans ce studio. On connaît pratiquement tous ces titres par cœur. Ça va taper du pied tout au moins. Michel Jonas, vous l'avez reconnu, bien sûr, la boîte de jazz, il sera avec nous, là, en chair et en os, jusqu'à 20h. On va écouter ses morceaux. Il y a plein de pépites dans ce nouvel album. Il y a la tournée de Michel Jonas. Il est de retour donc sur scène. Vous savez que ça faisait 8 ans.
Ah
8 ans,
oui,
Anissa, qui n'avait pas donné de la voix.
Mais c'était très long.
Et je sais que ça vous a particulièrement manqué. C'est son 19e album. Alors attention, la Méouge, le Rhône, la Durance. Qu'est-ce donc?
Il y a du fleuve dans tout ça.
Il y a du fleuve, il y a de la rivière. Il nous dit tout, Michel Jonas, quand il s'installe à côté de nous tout à l'heure.
Oui, vous pouvez vous aussi poser toutes vos questions à Michel Jonas. Vous l'aimez, vous avez suivi son parcours, vous attendez ce nouvel album. N'hésitez pas. 3921 en direct pour réagir ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir. C'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Didier Gayagué, aujourd'hui, par cette prise de parole, ne fait que renforcer cette ambiance glauque et anxiogène en attaquant tous ceux qui peuvent attaquer de façon abjecte.
La réplique de l'ancien patineur Gwendal Pesra, le patron du patinage français Didier Gayagué, dénoncé aujourd'hui, je cite, les opportunistes et les minables qui le salissent.
La seule femme dirigeante du CAC 40 va-t-elle être débarquée? L'État aura son mot à dire demain, conseil d'administration chez Engie.
Dans ce journal aussi, une revenante, Catherine Trottmann, tête de liste socialiste dans la course à la mairie de Strasbourg. Et puis la poussée de l'extrême droite en Allemagne, des élus locaux du parti conservateur ont voté avec les nationalistes de l'AFD.
La tendance météo d'Anissa.
Et demain, c'est une belle journée d'hiver, c'est-à-dire des températures en baisse, des gelées matinales, mais surtout beaucoup, beaucoup de soleil sur l'ensemble de la France. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Il dit vouloir rétablir la vérité. Didier Gayagué s'est longuement expliqué. Conférence de presse aujourd'hui. Interview à Europe 1 tout à l'heure. Le patron des sports de glace français ne reconnaît aucune faute, il ne démissionne pas, il dément avoir couvert le moindre cas d'agression sexuelle et s'en prend, je cite, aux minables qui veulent le salir et à la ministre des Sports, moralisatrice, dit-il. Écoutez-le.
Moi, je sais ce que j'ai fait pour cette fédération. Nous avons œuvré sur ces domaines que sont la malveillance, la maltraitance. Et tout ça est bafoué par certains. Alors bon, je suis déçu de voir des garçons comme Gwendal Pesra tomber dans ce genre de choses, ce n'est pas digne de lui. Et d'ailleurs, il devrait se rappeler ce que nous avons fait ensemble pour arriver à sa réussite. Si on savait tout, ben pourquoi on n'a pas dénoncé? C'est trop facile d'aller baver sur les plateaux de télé. Gwendal s'est présenté à la présidence de la fédération, et ben, il n'a pas été élu.
Didier Gayaguet à votre micro tout à l'heure, Nathalie.
Et la réponse ce soir de l'ancien patineur Gwendal Pesra qui réclame toujours sa démission.
À mots couverts, il me traite de minable. Voilà où est la moralité aujourd'hui. Didier Gayaguet, aujourd'hui, par cette prise de parole, ne fait que renforcer cette ambiance glauque et anxiogène en attaquant tous ceux qui peuvent attaquer de façon abjecte. La question n'est pas de savoir ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. La question est de savoir, est-ce que moralement, aujourd'hui, il est bien de s'acharner dans ce dossier à vouloir absolument défendre sa place qui lui appartient de président de sa fédération. Il y a beaucoup de choses qui sclérosent cette fédération et il faut que ça change.
Gwendal Pesra, joint pour Europe 1 par Romain Noquet.
Le monde du football est à son tour touché par ce mouvement de libération de la parole.
Le président du club d'Angers, club de Ligue 1, est en garde à vue. Saïd Chaban est accusé d'agression sexuelle. 3 plaintes ont été déposées par des femmes qui travaillent ou ont travaillé pour le club.
Elle est la seule femme à diriger une entreprise du CAC 40 et elle pourrait perdre son poste dès demain.
Et le calendrier s'accélère chez Engie, l'ancien GDF, conseil d'administration extraordinaire, convoqué demain Emmanuel Duteil pour trancher sur la reconduction d'Isabelle Cochet.
Ouais, alors sur le papier, on pourrait se dire un patron ou une patronne qui perd son poste, bon, bah voilà, c'est la vie des entreprises. Mais là, on est quand même vraiment sur un cas très particulier. Pourquoi ? Parce que déjà, on parle d'un mastodonte, Engie, ex-Gaz de France, et de la seule entreprise du CAC 40 dirigée véritablement par une femme. Isabelle Cochet, qui n'a jamais eu le droit au titre de PDG, la tête de ce mastodonte depuis 2014, ingénieure, spécialiste d'optique quantique, elle a gagné ses galons comme directrice financière avant de prendre la direction et de succéder à Gérard Mestrallet, l'emblématique patron de l'entreprise. Elle qui assume que la meilleure façon de réussir, c'est la vitesse, a voulu du coup très rapidement changer les équipes et écarter la vieille garde. Les 350 principaux managers ont été renommés, ce qui a énervé, vous l'imaginez bien, en interne. Elle s'est en plus vite mis à dos son conseil d'administration. D'un point de vue stratégique, elle a accéléré le virage de la transition écologique, mais voilà, derrière la bonne idée, certains estiment que dans les faits, cette stratégie ne fonctionne pas bien. Pour la soutenir, plusieurs grands noms comme Anne Hidalgo ou Yannick Jadot ont signé en début de semaine une tribune dans la presse. Une bataille médiatique au grand jour qui a énervé, je peux vous dire, en plus haut lieu et qui a scellé son sort, notamment du point de vue de son actionnaire, l'État, d'où le conseil d'administration de demain qui, sauf énorme surprise, annoncera la non-reconduction de son mandat.
Les précisions d'Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
La politique et ce coup de théâtre à Strasbourg, voilà. Catherine Trottmann.
Ah oui, l'ancienne maire sera finalement tête de liste socialiste dans la course à la mairie de la capitale alsacienne. Candidature qui rebat les cartes à 5 semaines des municipales. Elle est ancienne ministre. Elle a dirigé la ville. À l'époque, elle avait considérablement verdi Strasbourg il y a 20 ans. Ça pourrait faire du mal à En Marche, Arthur Mbaché.
Mon ambition, c'est que nous gagnions.
La revoilà, 31 ans après sa première élection à Strasbourg, Catherine Trottmann, tout en haut donc de la liste PS, à la place d'un candidat à la peine, pas sûr de passer la barre des 10%.
Je m'engage de manière totale. Vous allez pouvoir dire, voilà, Catherine, le retour, voilà, non. Bon, je suis ni une revenante, ni un fantôme. Non, je suis bien vivante et je n'ai pas l'habitude de me cacher derrière un drap.
J'accueille avec courtoisie tous les nouveaux candidats.
Ça, c'est Alain Fontanel, jeune candidat En Marche, qui parle avec courtoisie donc des 69 ans de l'ancienne ministre de Lionel Jospin.
Elle a été maire de Strasbourg en 1989. Je pense que c'est la fin d'un cycle politique, cette élection. Une génération politique qui arrête. Pour ma part, je reste concentré sur ma campagne avec mes colistiers.
Le nom Trottmann ne permettra pas forcément au PS de devancer les écolos, très en vue ici en ce moment, mais pourrait renforcer le bloc de gauche vers PS au deuxième tour et compliquer la tâche d'En Marche qui, il y a quelques semaines, voyait encore Strasbourg comme du tout cuit. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
La lutte contre le coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé a besoin de 600 millions d'euros pour lutter contre l'épidémie ces 3 prochains mois. Appel de fonds lancé aujourd'hui, alors que le bilan s'approche des 500 morts en Chine. 1,5 million de masques seront envoyés dans 24 pays. En France, les 6 patients atteints sont dans un état stable à l'hôpital. Et puis aux États-Unis, jour d'acquittement pour Donald Trump, le Sénat américain s'apprête à voter ce soir la fin de la procédure d'impeachment.
À 22h, hein, on y revient d'ailleurs dans le détail avec Didier François. Et puis cette image en Turquie.
Un avion s'est brisé en deux tout à l'heure à son atterrissage à Istanbul. Le bilan est miraculeux. Tout le monde est bien vivant. Il y a tout de même 52 blessés parmi les 177 passagers. L'avion venait d'Izmir. Le fuselage s'est coupé en deux et a pris feu après une sortie de piste.
Et nous allons maintenant en Allemagne ce soir où la poussée de l'extrême droite vient de franchir un nouveau pas.
Pour la toute première fois, des élus locaux du parti conservateur, celui d'Angela Merkel, ont joint leur voix à celle de l'AFD, parti nationaliste, pour élire un président de région. Ça s'est passé dans la Thuringe. Bonsoir Hélène Kohl, vous êtes notre correspondante en Allemagne. C'est un séisme politique qui secoue tout le pays.
Oui, c'est un symbole aussi parce que c'est déjà là, en Thuringe, en 1930, que la première digue avait sauté face au nazisme. La droite modérée, à l'époque, avait manœuvré pour faire barrage à la gauche et accéder au pouvoir avec le soutien du parti de Hitler. Eh bien, ce midi à Erfurt, on a vécu un petit peu le même scénario avec l'arrivée au pouvoir d'un président absolument fantoche, un inconnu, un membre du parti libéral FDP qui n'a recueilli que 5% des voix aux élections cet automne, 5% dans les urnes. Mais au moment du vote du président de la région, l'extrême droite en a fait sa marionnette. Au troisième tour, alors qu'elle avait elle-même présenté un candidat, elle lui a accordé absolument toutes ses voix, prenant au piège la droite classique, la droite de Merkel, la CDU, qui s'est retrouvée de facto à voter de concert avec les nationalistes contre le candidat de la gauche. Alors les réactions ici sont unanimes pour dénoncer cette situation, y compris de la part de la direction fédérale du parti conservateur, la CDU. C'est une journée noire, une honte, un tabou est brisé, surtout que dans cette région, l'extrême droite est particulièrement radicale avec des élus ouvertement néo-nazis. Alors pour sortir de l'impasse, la CDU demande l'organisation de nouvelles élections dans la région, mais ça va laisser des traces. Dans ce contexte, la gauche du SPD se demande s'il est encore possible de continuer à gouverner au niveau national avec cette droite qui se compromet de la sorte.
Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin. Et puis cette dernière information, on revient à Paris. Roland Garros va pouvoir braver la pluie. Ça y est, le court central a son toit rétractable. La 11e et dernière aile a été posée sur la structure du court Philippe Châtrier. Il va pouvoir s'ouvrir et se refermer pour éviter les interruptions de match, en tout cas sur le central, lors de la prochaine édition du tournoi 2020 à partir du 24 mai. Ce sera évidemment sur Europe 1 Radio officielle de Roland Garros.
On arrive quand même 4 ans après l'US Open, 11 ans après Wimbledon et 32 ans après l'Open d'Australie, hein, pour le toit. Merci beaucoup Sébastien. L'info revient à 19h30. Anissa, du vent, de la grisaille?
Alors le matin, pour commencer, effectivement, il y aura un peu de grisaille sur le nord, la région parisienne, le centre Val-de-Loire. Quand vous allez vous lever demain matin, le ciel sera bas, mais ces nuages vont se dégager au fil des heures pour laisser place à un très beau soleil. Effectivement, c'est une journée où nous avons du soleil sur pratiquement toute la France. Sur le Languedoc-Roussillon, le vent d'autant va vous apporter des entrées maritimes, donc là, ça sera un petit peu plus humide. Et puis, les températures, elles sont en baisse. Attention, hein, nous aurons des gelées demain matin. On va certainement gratter les pare-brises du côté de Rodez avec moins 3 degrés, moins 2 à Aurillac, 0 à Lyon, 0 à Caen, 1 degré à Paris et à Lille, 4 pour Nîmes le matin. Dans l'après-midi, 7 à 17 de Belfort à Biarritz, 9 pour Dijon, Chambéry, 10 pour Paris, 11 à Clermont-Ferrand et 15 pour Bordeaux. Et puis je vous rappelle que 3 départements sont placés en vigilance orange crue, les Ardennes, la Marne et la Meuse. Prudence.
Europe 1. Et vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy.
Avec l'interview politique à suivre, bonsoir Aurélie Herbemont, bienvenue.
Bonsoir Nathalie.
Votre invitée ce soir.
Marie Guévenoux, députée LREM de l'Essonne et vice-présidente de la commission d'enquête sur l'attaque à la préfecture de police de Paris.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy est tout de suite place à l'interview politique.
Avec votre invitée ce soir, Aurélie Herbemont, Marie Guévenoux, députée En Marche de l'Essonne et vice-présidente de la commission d'enquête sur l'attentat de la préfecture de police de Paris.
Bonsoir Marie Guévenoux.
Bonsoir Aurélie Herbemont.
La commission d'enquête sur l'attaque commise à la préfecture de police de Paris, qui a fait 4 morts en octobre dernier, a fait un premier point d'étape aujourd'hui. Il y a eu une faillite collective à la préfecture, comme le dit Éric Ciotti, qui préside cette commission.
Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis que les travaux de la commission d'enquête parlementaire ont commencé, on a effectué avec mes collègues de tous les groupes parlementaires une trentaine d'auditions et ce qu'on assiste à en témoignage, un certain nombre de dysfonctionnements sur lesquels on doit tirer des enseignements pour pas qu'ils se reproduisent.
C'était, selon vous, d'après ce que vous avez entendu, de la négligence, de l'amateurisme face aux signes qui auraient dû alerter dans le comportement de Michaël Harpon ?
Ouais, je pense qu'il y a eu une difficulté à appréhender d'abord le fait que la menace pouvait frapper à l'intérieur même de nos services de renseignement. On ressent ça des auditions de façon assez nette. Alors, je ne peux pas vous donner le contenu des auditions parce que beaucoup d'entre elles ont eu lieu au secret à huis clos. Mais vraiment, le sentiment général, c'est qu'il y a une difficulté de la part de nos services, à la DRPP en tout cas.
À la direction du renseignement de la police de Paris.
Oui, tout à fait. De prendre en compte le fait que la menace pouvait être à l'intérieur même du service. Et c'est cette sidération auquel on assiste finalement dans le cadre des auditions et qui nous-mêmes nous stupéfait en tant que parlementaires. Donc il y a un certain nombre de signaux qui n'ont pas été pris en compte et qui auraient dû être pris en compte.
Qui auraient dû être pris en compte et donc qui auraient dû amener à ôter l'habilitation secret défense qu'avait Michaël Harpon quand il travaillait au service informatique.
Oui, tout à fait. En retraçant dans le cadre des auditions, on apprend que Michaël Harpon se marie, mais que ça ne provoque pas une enquête sur son conjoint. Or, quand on est dans un service de renseignement, il faut que le service de renseignement sache que votre environnement évolue et que vos relations évoluent, y compris dans cette proximité. Ensuite, il se convertit à l'islam. Là aussi, l'acte de conversion n'est pas un signal qui est pris en compte. Or, là aussi, quand on se convertit, ça veut bien dire que l'on commence à fréquenter une mosquée, une église, peu importe.
Que son environnement change,
son environnement change et que ça doit appeler la vigilance des services. Enfin, il a un changement de comportement. Là, pour le coup, qui devrait éveiller fortement les services. Il refuse de faire la bise aux femmes pour leur dire bonjour. Et enfin, dernier point, il critique au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Enfin, pas il critique, il laisse clairement à penser qu'il soutient les terroristes de Charlie Hebdo en disant que finalement, les journalistes de Charlie Hebdo l'ont bien cherché.
Alors
et ça, ces signaux n'ont pas été pris en compte. Il est, juste pour rassurer les auditeurs, il est très clair que dans les autres services de sécurité
français, DGSI, à la DGSE, renseignement intérieur et extérieur, c'est davantage contrôlé.
C'est tout à fait contrôlé. Ces signaux auraient donné lieu immédiatement, enfin, le premier de ces signaux, au moindre signal, aurait donné lieu au retrait de l'habilitation, probablement à la suspension de l'agent. Et je vais aller plus loin, il est à mon sens clair que le profil de vulnérabilité de Michaël Harpon n'aurait pas permis son recrutement au sein des services de sécurité.
Alors, les travaux de la commission d'enquête ne sont pas terminés, les conclusions seront rendues début avril, mais est-ce que vous avez déjà des pistes de préconisation pour que ce genre de situation ne se reproduise pas, même si évidemment, le risque zéro n'existe pas?
Alors, oui, le rapporteur rendra son rapport donc début avril, hein, Florent Boudier, qui est notre rapporteur, début avril, où il présidait sous la présidence d'Éric Ciotti, député des Républicains, pour être tout à fait complète. Aujourd'hui, la commission d'enquête parlementaire n'est pas en capacité, ne rend pas de conclusion, elle a fait un point d'étape. Ce qui se dégage, c'est qu'il y a deux voies, aucune d'entre elles n'est tranchée à ce stade. La première, soit on professionnalise la DRPP et on met en place un certain nombre de procédures, de process très clairs qui permettent de...
Il y a déjà des choses qui ont été faites ces derniers mois.
Évidemment, oui, tout à fait, c'est à souligner. D'ailleurs, la directrice actuellement en poste avait été nommée pour corriger un certain nombre de dispositifs, pour mettre en place un certain nombre de dispositifs justement de contrôle. Donc il y a déjà un travail qui a été fait. Cependant, à la lumière des auditions, on voit bien que il y a une différence entre ce qui se passe à la DGSI ou à la DGSE, comme on se le disait tout à l'heure, et ce qui se passe à la DRPP. Et donc ça, il faut trouver soit une façon d'arriver au même niveau de sécurité.
De sécurisation.
Exactement. Par des process qu'il va falloir qu'on établisse, etc.
Soit
qu'on intègre la DRPP à la DGSI et qu'il n'y ait plus de service de la DRPP.
Qu'il n'y ait plus donc de service du renseignement à la préfecture de police de Paris. Et ça,
exactement. Mais on n'en est pas là pour l'instant. On est vraiment sur deux options. Aucune d'entre elles n'est tranchée. Et on a une trentaine d'auditions qui nous attendent encore sur ce sujet.
Marie Guévenoux, parlons aussi de la majorité maintenant, puisque vous êtes députée de La République En Marche. Majorité qui, on le sent, s'est sentie meurtrie par des propos du chef de l'État ce week-end après le tollé autour du congé parental après le décès d'un enfant. Emmanuel Macron ce week-end avait appelé à davantage d'humanité. Même hier, en réunion de groupe, des députés ont critiqué ces propos du chef de l'État. Est-ce qu'il y a un malaise entre les marcheurs et le président de la République?
Les députés, ils n'ont pas été meurtris par tel propos ou tel autre. Ils ont été d'abord... je pense fâchés de la façon de se sont passées les choses et de la façon dont ça a pu être ressenti par les Français. Ils ont été mis en cause très fortement dans leur humanité, comme si un débat parlementaire, ça pouvait se résumer à quelques petites phrases dans l'hémicycle, et qu'on pouvait résumer un individu, un député, à quelques petites phrases dans l'hémicycle. C'est ça qui a choqué les députés. On peut pas... Le débat parlementaire qui s'est déroulé dans l'hémicycle proposait que les jours de congé donnés à des parents qui doivent vivre le drame d'avoir perdu un enfant soient rallongés de 5 à 2 jours à la charge des entreprises. Et il y a beaucoup de députés de mon groupe qui considèrent que c'est à la solidarité nationale, ni aux entreprises, ni aux salariés, ni tant mieux si elles veulent participer, hein, mais que c'est à la solidarité nationale avant tout de jouer. Et ce qui est finalement difficilement audible dans un hémicycle, vous savez ce qu'est l'Assemblée nationale, c'est une cocotte minute sous pression, donne, et avec des réseaux sociaux qui relaient aussi des messages assez simpliste, en laissant penser que 37 de mes collègues sont inhumains, n'ont pas de cœur.
Ce qu'Emmanuel Macron a alimenté d'une certaine manière.
Ce que l'on dit, on fait parler le président de la République, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le président de la République n'a pas fait une déclaration. Il était en marge d'un déjeuner, et moi, ce que j'ai compris de ce qu'il avait dit...
C'était l'Élysée quand même qui a fait savoir qu'il demandait de l'humanité.
Oui, mais que le président de la République, le Premier ministre, les députés disent que ces questions doivent être traitées avec humanité, moi ça ne me choque pas, je trouve ça même normal. Heureusement que ça doit être traité avec humanité. Mais ce n'est pas la même chose que l'opposition dit qu'on n'a pas, enfin une partie de l'opposition, parce que tout le monde ne se comporte pas comme ça, mais met en cause l'humanité de nos collègues. Évidemment qu'on a l'humanité, moi je suis mère de famille, vous croyez que ça ne me touche pas ? C'est évidemment. Donc voilà. Mais les débats parlementaires ne peuvent pas être réduits à l'aune de Facebook et Twitter.
Vous dites qu'il n'y a pas de malaise du coup avec le président, mais peut-être avec l'exécutif. Je vais vous donner deux phrases. Les mots sont assez durs. Mm-hmm. Quand vous lisez ce week-end dans Le Parisien un ténor de la majorité qui dit que, en gros, les députés sont des cons d'avoir voté ce qu'ils ont voté, pardon pour les gros mots, et ce matin dans Le Figaro un ministre qui dit, sous couvert d'off, un député de la majorité ne sert à rien, il est là pour voter, avoir une mission de temps en temps et surtout fermer sa gueule.
Bon, moi, d'abord, réagir à du off, il y a des gens qui n'assument pas les propos, c'est toujours extrêmement compliqué. On ne sait pas si le ténor de la majorité est le ténor d'une majorité qui résiderait dans
mais
un
couloir. Mais c'est quand même compliqué la relation.
Que ça ne nous facilite pas la vie, ce type de déclaration, je vous l'accorde. Mais c'est pas le sujet, puis ce n'est pas ce qui intéresse les gens, donc, en vrai. En vrai, ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'on fait pour les parents qui ont perdu un enfant comment on les accompagne.
Donc vous voulez passer à autre chose. Merci beaucoup, Marie Guévenoux.
Je peux résoudre des problèmes de pensée.
Merci. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy.
Demain en France, demain dans le monde, c'est dans un petit instant. On va être aux États-Unis bien sûr, et puis restez avec nous à 19h30. C'est Michel Jonas, le chanteur qui est de retour sur scène et qui est là dans ce studio en vrai.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et tous les jours avant 19h30, Nathalie Lévy, on prend un temps d'avance pour regarder le monde changer et on s'intéresse à ce qui va se passer demain.
Alors demain, à Marseille précisément, où l'on s'apprête à plonger sur la protection du littoral et de la Méditerranée. Bonsoir Nathalie Chevance.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondante dans la cité phocéenne et demain justement, c'est un grand concours qui est lancé pour trouver des solutions écolo, intelligentes, innovantes, afin de limiter les pollutions.
C'est ça, un concours national de start-up organisé ici à Marseille afin de répondre à plusieurs défis. Comment protéger la biodiversité? Comment limiter l'impact des activités économiques sur la mer? Comment faire aussi pour réduire les déchets plastiques? Vous êtes entrepreneur, vous avez la bonne idée, eh bien c'est le moment de participer à ce concours. Il est organisé par le club Top 20 des plus grandes entreprises des Bouches-du-Rhône qui sélectionneront et financeront à hauteur de 100 000 euros les projets les plus innovants. Et il y a urgence, comme le souligne Sandrine Motz, directrice générale de la Société des eaux de Marseille.
Pour la Méditerranée, chaque année, ce sont 600 000 tonnes de déchets plastiques qui sont déversées. La démarche, c'est d'aller capter des sociétés, des jeunes souvent, qui ont des idées qui peuvent être transformées en solutions. Par exemple, comment limiter et faire des déchets plastiques une ressource pour les territoires. Donc c'est bien en amont, au niveau de la production, qu'il y a peut-être des solutions à apporter. Ou alors, très concrètement, des solutions qui visent à réduire le plastique issu des activités de plaisance en mer. Nous ne pouvons pas rester inactifs.
Alors le concours MyMed attend tout de même une centaine de projets. 6 lauréats seront désignés au mois de juin à l'occasion du Congrès mondial de la nature qui se déroulera justement à Marseille.
Et voilà comment on se remonte les manches chez vous. Merci beaucoup Nathalie Chevance. On s'éloigne, on va outre-Atlantique maintenant avec vous Didier François. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça s'appelle l'alignement des planètes, ou alors je ne comprends plus rien. En ce début de cette campagne présidentielle américaine, Donald Trump est en hausse et nettement dans les sondages. Hein.
Absolument. 5 points de progression, c'est énorme. Et c'est le constat du très sérieux Institut Gallup qui évalue désormais à 49% le taux de satisfaction des Américains pour le travail fourni par le président. Ce qu'il place évidemment en excellente position pour sa réélection. D'autant que cette nette amélioration de son image personnelle s'accompagne d'un véritable regain de confiance pour son parti, les Républicains, qui obtient 51% de faveur des personnes interrogées, 8 points de plus qu'au mois de septembre dernier. C'est une véritable percée et c'est surtout la première fois depuis que le Parti Républicain passe la barre des 50% depuis 2005. Alors, je peux vous dire qu'à la Maison-Blanche, c'est le moment
de
sourire.
C'est champagne. Alors, Donald Trump a forcément bénéficié du ratage de la primaire démocrate de l'Iowa. Toujours pas de vainqueur, beaucoup de consternation.
Oui, alors c'est vrai que cet épisode incroyable n'a certainement pas servi le concurrent potentiel du président. Mm-hmm. Mais le pire pour les démocrates, c'est que ce n'est pas du tout une tendance conjoncturelle. C'est un mouvement de fond. L'Institut Gallup montre des raisons lourdes de ce nouvel engouement pour Donald Trump. D'abord, il y a le rejet de la procédure d'impeachment. Plus de 52% des Américains considèrent que les éléments ne sont pas suffisants pour le destituer. Et puis, il y a un vrai soutien à sa politique de fermeté envers l'Iran. 53% en faveur de l'élimination du général Soleimani en représailles à l'attaque contre l'ambassade des États-Unis en Irak. Mais surtout, pour la première fois depuis 15 ans, les Américains pensent à 63% que leur économie est florissante. Que le fait de se battre contre les Chinois et les Canadiens pour renégocier les accords commerciaux, ça fait préserver les emplois. Et ça, c'est un argument électoral qui n'a pas de prix.
Et cet impeachment, l'acquittement ce soir, c'est 22h, heure de Paris. Didier François, on commencera ça avec vous.
Et là aussi, c'est une bonne séquence.
Il est même possible que les sénateurs démocrates votent son acquittement au président américain, c'est dire. Demain dans nos vies, c'est vous, Théophile Cossa, aux manettes. Bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Vous nous parlez du GPS du futur pour nous localiser non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. Attendez, il faut suivre. Hein.
Oui Nathalie, le GPS, on l'utilise tous sur nos smartphones. Très pratique pour nous repérer dans la rue. Mais vous avez remarqué, dès que vous rentrez dans un immeuble, ça marche plus. Mais c'est bientôt fini avec l'arrivée du GPS d'intérieur, vous l'avez dit, qui va pouvoir localiser votre smartphone à l'intérieur du bâtiment.
Ah ouais, c'est pas mal quand même, ça sert à quoi?
Croyez-moi, ça va devenir de plus en plus utile. Est-ce que vous avez entendu parler de la tendance du flex-office? Vous savez, c'est le nouveau truc dans les entreprises, plus de bureaux à signer, les collaborateurs s'installent où ils veulent. C'est bien, sauf que si vous avez besoin de parler à Rémi de la Compta et que vous ne savez pas où est-ce qu'il s'est installé aujourd'hui, vous pouvez tourner longtemps, mais plus grâce au GPS d'intérieur qui va vous aider à le retrouver. Et ça dépasse d'ailleurs les entreprises. Imaginez, dans les bâtiments publics, musées, universités, administrations, retrouver le bureau L413, hall B, 8e étage, tout de suite, ça va devenir plus facile. Vous voyez, c'est pas si gadget.
Hein. Ouais, alors ça marche comment? Dites-nous tout.
En fait, ce sont des petits radiotransmetteurs qui vont être disposés un peu partout dans le bâtiment et qui vont communiquer par Bluetooth avec les smartphones, permettant une localisation très précise, moins de 3 mètres. Mais alors déjà, les défenseurs de la vie privée s'étranglent. Ouais. Est-ce encore un outil pour nous espionner? Le débat est ouvert. Toujours est-il que ce nouveau marché emballe le monde de la tech, il pourrait peser, tenez-vous bien, 41 milliards de dollars en 2022.
Ah oui, dis donc, c'est ça, quand on ne s'y retrouve pas dans les locaux. Merci beaucoup Théophile Cossa.
Europe 1. À suivre Nathalie Lévy.
Michel Jonas.
Ah
ouais, allez, on l'écoute, j'ai pas besoin de parler. Oui, on vous attend, Michel, bien sûr. On vous attend tous, on est là, on ne bouge pas et on vous écoute pendant une demi-heure jusqu'à 20h.
Et vous pouvez poser toutes vos questions à Michel Jonas, il vous l'écoute. Vous pouvez même juste lui passer des messages. Vous lui dites que vous l'aimez. Michel Jonas, ça se passe au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Tout de suite. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Rappel des titres signés Sébastien Krebs tout de suite.
Et une information judiciaire ouverte pour agression sexuelle contre le président du club de foot d'Angers, club de Ligue 1, Saïd Chaban, est en garde à vue depuis ce matin. 4 femmes l'accusent. Dans un communiqué, le club conteste formellement toutes les allégations. Et cela au moment où le patinage est aussi secoué. Le patron de la Fédération des sports de glace a mené la contre-attaque aujourd'hui. Conférence de presse et interview à Europe 1. Il estime ne pas avoir commis de faute. 120 blessés après la sortie de piste spectaculaire d'un avion à l'atterrissage à Istanbul. Le fuselage s'est brisé en 3 morceaux et a pris feu. Il y avait 177 passagers à bord. Miraculeusement, tout le monde est en vie. L'OMS lance un appel de fonds, plus de 600 millions d'euros nécessaires pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. En Corse, l'incendie contenu, mais les avions bombardiers d'eau luttent toujours contre les flammes qui ont ravagé 1000 hectares de végétation. Les bons chiffres du e-commerce, le cap des 100 millions d'euros de ventes par Internet franchis en France en 2019. Et puis aux États-Unis, jour d'acquittement pour Donald Trump, le Sénat s'apprête ce soir à mettre fin à la procédure d'impeachment.
Merci beaucoup Sébastien Krebs, le retour de l'info avec vous demain 18h dans votre grand journal du soir. Anissa, une belle journée demain.
Oui, c'est une belle journée d'hiver, les vacances arrivent, pourquoi pas les passer au bord de la mer. Tiens, ces vacances demain, il va faire beau. Alors attention sur le nord, la région parisienne et pays de la Loire, la journée va commencer avec des nuages bas, ce sont des grisailles matinales qui vont se dissiper au fil des heures, mais restez prudent si vous devez prendre la route tôt demain matin. Au bord de la mer justement, sur le Languedoc-Roussillon, le vent d'autan va vous apporter des entrées maritimes, donc ça sera très humide dans ce secteur. Partout ailleurs, c'est du grand et beau soleil. Demain après-midi, 7 à 17 degrés. Nous aurons 9 degrés à Dijon et Chambéry, 10 pour Paris, 11 à Clermont-Ferrand et 15 degrés pour Bordeaux.
Europe 1.
Et en parlant de vacances au bord de la mer, voici votre invité Nathalie Lévy. Jusqu'à 20h, vous recevez Michel Jonas. Il est de retour, enfin, avec un nouvel album.
Et du Brésil reste donc si difficile, terre de route, terre d'argile d'aimer. Femme, où es-tu, je te cherche, où es-tu dans la savane perdue? Dans les nuits tropicales, dans les nuits tropicales.
On pourrait l'écouter en entier, Michel Jonas, mais on vous salue d'abord. Bienvenue, Michel Jonas, merci
bonsoir,
beaucoup d'être ici. Bonsoir, ça, bienvenue. Bonsoir. Nuit tropicale, donc issue de cet album, L'Améouge, le Rhône, La Durance, votre 19e album. Cette tournée, elle s'intitule Groove, il est groovy ce morceau.
Ah oui.
Il est punchy, il est groovy.
Je pense. Il y a un rythme dedans, voilà. Mais vous savez, le groove, c'est pas forcément une question de rapidité de tempo. Vous pouvez avoir des tempos très lents et avoir quand même dedans, à l'intérieur, une pulsion rythmique. Enfin, je pense que chacun a la sienne de pulsion rythmique. Bon, voilà, moi j'ai la mienne.
Très bien, on va écouter d'autres morceaux évidemment de cet album, 8 ans après le dernier. Qu'est-ce qui s'est passé, Michel Jonas ?
Le temps passe vite.
Non mais attendez, 8 ans ça fait long
quand même. Oui, mais ça passe tellement vite. Et puis
on
surtout...
vous manquait pas alors ? Le public ne vous
mais
manquait pas.
J'étais tout le temps sur scène. Le public ne manque pas.
La création, la créativité.
Oui, ça commençait à me titiller un peu. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que pour écrire, j'adore ça. Pour écrire, j'ai besoin d'une période un peu tranquille et un peu longue. Et donc, ça a été seulement à partir de l'année 2018, hein, parce qu'avant, j'ai fait beaucoup de spectacles, beaucoup de concerts entre le piano voix avec Jean-Yves D'Angelo et l'autre spectacle, le quartet avec Jérôme Regard et Manu Katché. J'ai fait du théâtre aussi, le cas Edouard Einstein. J'avais besoin d'une période plus tranquille et c'était en 2018, voilà, où il y avait moins de concerts et où j'ai pu me plonger dans cette aventure d'écriture.
Voilà, alors ça nous donne la Méouge, le Rhône, la Durance, ça nous donne une tournée. Alors là, pour le coup, vous remontez sur scène depuis déjà novembre et c'est parti pour durer jusqu'à l'été sans doute, avec une étape entre autres, parce qu'il y a Limoges, Aix-en-Provence, Dijon, Clermont-Ferrand, là au mois de février entre autres, et puis il y a Paris au mois d'avril, Palais des Sports, deux dates 25 et 26 avril, donc à ne pas manquer, Michel Jonas avec cette tournée Groove. La Méouge, le Rhône, la Durance, ce sont des noms de rivières, des noms de fleuves. Pourquoi cela ? Et pourquoi ce titre-là ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?
Où ça ? D'abord, ce qui s'est passé, c'est que j'étais parti de la Méouge, que je connais parce que j'avais une petite maison située dans les Alpes du Sud, je l'avais parce que je ne l'ai plus. Et que pour arriver à cette petite maison qui était en haut d'une montagne, il fallait passer par, vous savez, c'est au-dessus de Gap, au-dessus de la Ragne, et je longeais une vallée qui s'appelle la vallée de la Méouge, et il y avait la Méouge au fond qui coulait. Et puis je trouve que les noms des rivières et les noms des fleuves sont très, c'est très poétique, oui.
Oui, vous parlez de la Garonne dans Joueurs de blues, Garonne.
C'est vrai qu'il y a beaucoup.
Ça vous suit.
Si vous écoutez des albums, je crois qu'il y a beaucoup de, l'élément eau est assez présent dans beaucoup de mes chansons.
Comment tu sens ?
J'aime l'eau.
Est-ce qu'on associe, Michel Jonas, l'eau à la mélancolie, l'écriture contre la mélancolie ? Qui êtes-vous, Michel Jonas ?
C'est marrant, ça, on me parle de beaucoup de mélancolie. J'en ai même fait une chanson qui s'appelle Mélancolie. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas du tout cette idée de tristesse qui peut être liée à ce mot-là. Moi, j'ai pas du tout ça, du tout, vraiment. Je sais qu'il y a des chansons qui pourraient prêter comme ça à confusion par rapport à ça. Mais non, vous savez, je cite souvent ce proverbe hongrois qui dit « Silvor vigad a magyar », qui est le hongrois, peut se réjouir en pleurant. Mais moi, j'ai pas aucune... Non, c'est vraiment la joie qui m'anime, moi. Et ça peut... mes émotions et mes sentiments peuvent effectivement s'exprimer à travers des chansons qui peuvent paraître comme ça, parce que j'aborde des thèmes de déchirure, de rupture, de choses comme ça. Oui, mais c'est... mais bon...
Mais ça,
c'est comme ça.
C'est comme ça, pas plus qu'un autre.
Mais c'est chansons...
même... Oui, il y a un autre thème. Il y a, dans la chanson La Maison de Retraite, parce que vous y allez, vous dites les choses franchement, vous parlez de la peur de vieillir. Vous,
non,
Michel Jonas,
moi.
Vous
pas
avez... Alors voilà, est-ce
non,
que vous, Michel
tout.
Jonas, avez
non,
peur de vieillir? Pas du tout.
Non, j'ai pas peur de vieillir. Et c'est justement de ça dont je parle dans cette chanson, pas seulement parce que c'est une chanson d'amour. L'histoire, c'est un homme qui retrouve une lettre où sa femme disait peut-être qu'un jour on pourra plus s'aimer parce qu'on sera trop vieux. Peut-être même qu'on va oublier qu'on s'aime. Et puis le corps va diminuer, etc. Et je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça existe pas, ça. Et puis leur maison de retraite, ils peuvent se la garder. Nous, on n'ira jamais. Nous, même quand on sera vieux, on ira dormir dehors et puis on regardera les étoiles et puis on se tiendra par la main comme quand on avait 18 ans. Parce que, moi, ce qui me plaît, c'est de chanter l'amour comme toutes les chanteuses et tous les chanteurs. Et que dans ces périodes, dans ces histoires d'amour, il y a comme une chronologie. Il y a la rencontre,
bien sûr,
qui est très excitante. Il y a une période après, si la rencontre se passe bien, qui est assez idyllique, où tout va bien. Vous voyez, bon, après, ça peut s'abîmer ou pas, d'ailleurs. Et puis, les couples qui tiennent comme ça. Moi, j'ai toujours été ému, c'est vrai, par les couples de personnes âgées qui se tiennent par la main, qui s'aiment, qui se regardent, j'en ai vu, qui se regardent avec des yeux amoureux. C'est vraiment...
Ouais, c'est beau, hein, c'est beau, on a tous envie de ça, a priori. Voilà. On va écouter encore...
Et l'amour n'a pas de limite, c'est
et
ça,
l'amour
cette
n'a
chanson.
Pas de limite.
Voilà.
Mais je pouvais pas ne pas vous poser la question,
elle
parce qu'une chanson qui s'intitule La Maison de Retraite,
oui, je sais.
Forcément, même si les paroles, évidemment, même si le texte est l'amour, c'est quand même pas fréquent. On écoute encore du Michel Jonas et on discute avec vous jusqu'à 20h.
Les jours je football des boîtes de ronron, et comme ces boîtes de tôle je tourne en rond. Quand je la pêche à la ligne du haut de mon balcon, elle m'emmène dans le parking et sur le béton.
Super Nana, Michel Jonas, qui est l'invité de Nathalie Lévy jusqu'à 20h. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions au 39-21. Votre grand journal du soir sur Europe 1. Et vous le savez, chaque jour avant 20h, on parle culture. Et nous sommes très heureuses de vous annoncer ce soir le grand retour de Michel Jonas avec un nouvel album, La Méouge, le Rhône, la Durance. Il est votre invité jusqu'à 20h, Nathalie Lévy.
Faut pas tout toucher, ça fait ça, on nous utilise. Pareil que c'est partout pareil, puis c'est la crise.
Baby, c'est la crise, c'est un des titres de cet album. Il y a la tournée, bien sûr, qui s'appelle Groove, qui court là jusqu'à Paris et après Carpentras. Ensuite, ce sera Montpellier. En tout cas, cette étape parisienne, 25 et 26 avril. Baby, c'est la crise. Avec le début du texte, c'est pas ce que chantait Bachung et sa petite entreprise. Il a fallu, parce que l'actualité nous y a amené avec les gilets jaunes, avec les retraites, il a fallu écrire sur l'actualité aussi.
Ah non, c'est pas une chanson sur l'actualité, c'est pour faire... C'est pour les rimes. J'aime
c'est
bien
pour
les
rimes.
Oui.
Mais vous regardez.
Baby, c'est la crise, entreprise,
ouais.
Comme
oui,
ça.
Bien sûr.
Et voilà.
Mais quand même, il n'y a pas un petit peu de l'actualité, la société. Vous la regardez, vous l'observez, vous êtes un artiste.
Oui, oui, tout
et,
à fait.
Et du coup.
Oui, du coup, je trouve que la période est. J'ai déjà parlé de ça, je trouve que la période est difficile. Parce qu'elle peut être violente et agressive, et en même temps, elle est vachement intéressante parce qu'il y a des défis à relever, et on sent que les mômes sont prêts à ça, les défis, bien sûr, écologiques, donc, où on doit inventer une toute autre manière de se comporter et de vivre, les défis aussi pour vaincre les mauvaises pensées, le racisme, l'antisémitisme, toutes ces... Et c'est pas très éloigné, vous voyez, c'est des combats qui sont très proches, parce que qu'est-ce qui peut vaincre le racisme, l'antisémitisme? c'est la fraternité. C'est l'idée qu'on est une famille humaine et qu'il faut, il faut cette idée de fraternité qui remplace l'égoïsme, parce qu'il n'y a que ça qui peut... C'est pas juste comme ça, ah oui, c'est mieux, ou c'est du blabla, peace and love. C'est que c'est une question de survie au jour d'aujourd'hui. Donc, cette période, elle est très intéressante
pour
ça.
Elle est charnière. Vous avez vu les sondages là, sur le droit au blasphème, la France divisée en deux.
Oui.
Français sur deux dit non, on n'a pas le droit de blasphémer.
Mais c'est une période complètement de transition. Je parlais de ça avec quelqu'un ce matin. On est vraiment dans cette période de transition très intéressante. Moi, je suis un enfant d'après-guerre où il y avait tout à construire, où le monde s'ouvrait devant nous, où on n'avait pas de soucis, on ne nous parlait pas. On n'avait pas de soucis et en même temps, on avait cette insouciance qui fait que peut-être, on en récolte les fruits aujourd'hui parce que voilà, quelle terre on laisse à nos mômes. Mais en même temps, moi, je suis quelqu'un de vraiment d'optimiste. Ouais. Et je pense qu'ils vont les relever, ces défis-là.
Optimiste et actif ou pas, vous faites quoi pour la planète, vous? Parce que dans le Midi Libre, vous avez dit trouver Greta Thunberg formidable.
Oui.
Elle vous inspire, donc vous faites quoi, vous, à votre échelle, Michel Jonas, pour la planète?
Il y a longtemps déjà que je... Parce que mon hobby, c'est de faire la cuisine. Par exemple, sur le plan de l'alimentation, même bien avant qu'on parle de ces problèmes-là, je faisais attention à acheter des produits qui n'ont pas fait des milliards de kilomètres, d'acheter des produits bio,
local,
etc.
De saison.
Donc je fais les marchés, je vais au marché, je discute avec les gens qui vendre ces produits-là, donc sur ce plan-là, voilà. Le tri, bien sûr, ça, c'est les choses minimum. Fermer le robinet d'eau, c'est des petits gestes. Vous savez, les petits gestes, ça fait un tout. Quand vous lavez les dents, vous fermez le robinet d'eau, vous faites le tri. Et quand on commence, il y a un truc, c'est que le cerveau s'habitue tellement à ça que vous ne pouvez plus faire marche arrière. Si vous commencez à faire ça, vous ne pouvez plus ne plus trier et vous avez mal au cœur si vous êtes obligé de jeter dans une poubelle une canette. Quoi. Bon,
alors normalement, on espère effectivement que ça fait des petits. Jules nous appelle ce soir depuis la Vendée. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nathalie, bonsoir Monsieur Jonas.
Bonsoir Jules.
Bienvenue, posez votre question, on vous écoute.
Parmi les grands standards, qu'est-ce que vous écoutez régulièrement?
C'est-à-dire que je suis un petit peu vieux style, moi.
C'est bien, on va se comprendre.
Ça ne veut pas dire que je n'écoute pas les nouveaux, mais je suis incapable de vous citer des... Comme ça, j'écoute dans ma voiture des choses qui me plaisent. Mais quand j'ai envie de me replonger dans des standards, comme vous dites, je réécoute tous les vieux Ray Charles, ou les Stevie Wonder, ou les Brassens, ou les Ferré, ou les gens qui m'ont donné envie, en fait, de faire de la musique. Voilà. Les Brel, très souvent, je me replonge là-dedans. Parce que ça me fait... Piaf. Et ça me fait remonter des souvenirs, parce que vous vous rendez compte que moi, j'ai vu Piaf sur scène. Alors ça, c'est une question que je pose sur scène. Qui a vu Piaf sur scène? Il y en a de moins en moins. Vous savez qu'il y a de moins en moins de gens qui ont vu Piaf sur scène. Ça me fait à chaque fois un coup de vieux. Et Brel, que j'allais voir tous les soirs sur scène. Donc c'est vrai que je me replonge là-dedans avec grand plaisir. Et puis j'écoute très régulièrement tous les bluesman, etc. Les vieux rock aussi, Little Richard, James Brown, le rhythm and blues, etc. Voilà.
Merci beaucoup, Jules, pour votre question. Jules qui nous appelait depuis la Vendée. Vous avez Michel Jonas, 73 ans, on peut
c'est
le dire.
Vous
comparez la musique à une vague, c'est vrai que vous parlez de l'eau beaucoup dans
une
vague. Comment vous continuez justement à surfer sur la vague depuis presque 50 ans?
Je crois que c'est une question de plaisir, parce que c'est exactement comme dans une histoire d'amour. Je ne me suis jamais lassé de la musique. Et ça, je sais que c'est au tout début, j'ai souvent dit, c'est vrai, au tout début, quand j'ai commencé à faire de la musique et que je me suis retrouvé sur une scène, j'avais un plaisir incroyable, une intensité de... Vous voyez comme les mômes, vous voyez les mômes quand ils sont dans leur jeu, ils vivent l'instant présent. Vraiment, ils sont dans l'instant présent. Et ça, c'est la clé du bonheur. La clé de la joie d'être, c'est d'être vraiment dans l'instant présent. Et je ressentais ça quand j'étais sur scène. Et je me suis dit, ça, c'est quelque chose que je ne veux pas perdre. Je ne veux pas perdre cette chose-là. Et c'est comme dans une histoire d'amour. C'est-à-dire, si on se programme pour toujours surprendre l'autre, ne pas s'endormir, être dans un espèce de confort, etc., je pense que l'histoire, elle peut durer longtemps.
Elle va durer encore avec vous, Michel Jonas, la Méouge, le Rhône, la Durand de votre album. La tournée, ça s'appelle Groove.
Baby Groove.
On suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants. On ne faisait que passer devant, et on regardait les bateaux. Le matin, on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures. On prenait de belles couleurs.
Les vacances au bord de la mer, Michel Jonas et votre invité Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1 pour nous présenter entre autres son nouvel album.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est tous les jours jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. Et un cadeau ce soir, un très beau cadeau. Le nouvel album de Michel Jonas. Bon, on va se disputer, hein, Nathalie, si vous le gardez. Michel Jonas qui est votre invité jusqu'à 20h.
On était bien tous les deux, rien d'autre à faire. De laisser le bonheur nous remplir de sa lumière. Les nuits étaient douces et le lit.
On était bien tous les deux. C'est la chanson qui ouvre cet album La Méouge, le Rhône, la Durance, qui est sorti en fin d'année, et cette tournée Groove, hein, qui se poursuit un peu partout en France avec vous, Michel Jonas.
Et le piano-voix aussi.
Et le piano-voix.
Il y a les deux spectacles en parallèle.
C'est vrai.
Piano-voix avec Jean-Yves D'Angelo.
Michel Jonas, vous êtes plutôt quelqu'un de pudique, hein.
Oui, c'est vrai.
C'est important pour vous de vous dévoiler dans vos chansons.
C'est important parce que ça me met en contact avec certaines émotions profondes que j'ai du mal à exprimer effectivement dans la vie quotidienne. Et quelquefois, j'ai dû déjà dire ça, je me sens plus proche de ma vérité intérieure quand je chante. Que dans la vie quotidienne où il y a le masque de il faut faire attention, etc. Enfin, moi, je suis comme ça. Je suis d'ailleurs admirateur des gens qui ont cette espèce de spontanéité très naturelle de dire tout de suite ce qu'ils ressentent. Et moi, j'ai du mal un petit peu avec ça.
Est-ce que la scène, du coup, c'est un exercice qui vous a amené vers plus de légèreté ou vers plus de facilité, non ?
Si vous voulez, là, je répondrai avec mon mental. Or, la scène, c'est pas quelque chose de mental. Vous voyez, on vit le temps sur scène, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, on se rend pas compte, quoi. Voilà. Donc, et si j'ai conscience que je suis sur scène, et que je suis en train de chanter, et que j'essaye d'analyser pourquoi, etc., ça peut être
là,
très dangereux.
Compliqué.
Mais oui, ça peut être dangereux parce qu'on n'est plus là.
Exactement.
On n'est plus dans la chanson. Vous voyez, c'est exactement comme quand on est comédien. C'est-à-dire, bien sûr, on n'oublie pas qu'on joue la comédie et on n'oublie pas que je chante. Je n'oublie pas que je chante quand je chante, mais je suis quand même, c'est peut-être une contradiction, enfin, je crois pas d'ailleurs, je suis quand même complètement dans la chanson que je chante et complètement dans le personnage qu'on me demande de jouer, même s'il y a cette toute petite distance qui fait. Mais s'il y en a trop, alors ça, c'est dangereux. C'est-à-dire, si mon esprit s'en va comme ça, tiens, qu'est-ce que je vais manger tout à l'heure, ou bien combien il y a de kilomètres à faire avant le prochain.
Là, on n'y est pas.
Là, on n'y est pas. Il n'y est pas présence, du tout.
Michel Jonas, vous êtes bel et bien là avec nous encore quelques minutes. Michel Jonas, on parlait de mélancolie dans vos chansons tout à l'heure. J'y reviens parce que mon rédacteur en chef s'interroge.
Ah bon?
Vous réalisez que vous avez accompagné lui et tant d'autres dans des ruptures amoureuses? Parce qu'ils ont écouté vos chansons en boucle, vos morceaux.
Je me rends compte. J'ai pu m'en rendre compte parce que j'ai eu des témoignages qui allaient dans ce sens-là, où des gens m'ont dit, vous savez, je vous ai écouté, ça m'a aidé. C'est drôle parce que c'est comme si, bon, il y avait aussi malheureux que moi. Donc, j'avais envie de vous prendre dans mes bras, de vous consoler, etc. Mais
Club Jonas,
c'est de faire du bien, quoi. C'est tant mieux si j'ai pu faire du bien et d'accompagner. Hein.
Et au-delà de ça, vous avez accompagné plusieurs générations, Michel Jonas. On a dit votre âge là, sans fausse pudeur tout à l'heure, 73 ans, et vous les portez merveilleusement.
Merci.
Pas de maison de retraite en vue, même s'il y a le titre, mais évidemment.
Mais justement,
Michel Jonas, vous avez accompagné donc plusieurs générations. Regardez, la fille d'Anissa, elle a 11 ans, elle connaît très bien vos titres. À 70 ans, on les connaît tout aussi bien. Vous êtes dans le patrimoine, clairement.
Oh, ça, j'en sais rien. Ça, c'est pas ça le problème. Hein. C'est pas le problème, ça.
C'est pas important pour vous ?
Non, c'est pas important. C'est pas important. Ça veut dire quoi, t'es dans le patrimoine ? C'est rien. Moi, je fais mon métier. Je me considère comme un artisan
mais
de la chanson.
Mais c'est chouette de traverser les générations.
Oui, mais ça me plaît.
C'est une belle reconnaissance.
Ça me plaît. Bien sûr. Alors des fois, il y a plus de personnes qui sont un peu plus âgées que de jeunes, mais c'est vrai que je constate qu'il y a beaucoup de jeunes aussi dans mes spectacles. Mais c'est drôle parce que je pense à un truc, c'est qu'il y a quelques jours, j'étais sur scène et je dis, est-ce qu'il y a des couples dans la salle, c'est une question que je pose à chaque fois, qui attendent un enfant? Alors là, il y a souvent un rire. C'est quoi ce rire? Vous voyez, ça me vexe. Et un jour, il n'y a pas longtemps, une femme se lève et me dit, nous, on est toutes ménopausées, monsieur Jonas.
Non,
j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Mais elle blaguait.
On parlait des artistes. que vous écoutez Michel Jonas, même si vous tendez pas nécessairement l'oreille à la nouvelle génération, vous en avez bien quelques-uns que vous écoutez un peu, que vous aimez bien. Mais... on parle beaucoup de Clara Luciani en ce moment,
oui, ça, c'est
un
bien.
Thomas Dutronc par exemple.
Ah, bah, j'adore Thomas Dutronc, voilà. Mais c'est plus tout.
Ah, c'est pas la nouvelle génération, ça.
Bah, je sais pas si c'est
les
la nouvelle quadras, génération.
C'est pas la nouvelle génération.
C'est comme M, j'adore M, mais bon, c'est plus la toute nouvelle génération. Oui, c'est vrai que j'entends des choses intéressantes. En fait, moi, je suis sensible aux mots, si vous voulez, aux textes. Je pense que quand il y a des textes, quand on sent que pour que ça fait partie de la, c'est ça la tradition de la chanson française, l'importance du texte. Vous voyez, moi, je suis, voilà, j'ai voulu faire ce lien entre l'importance du texte parce que j'écoutais Brassens et Ferré, et puis, mais ce qui m'a donné effectivement envie de faire de la musique, ça a été le rock'n'roll pour le jazz, hein. Etc. Red Charles avec Wada Issey, etc. Donc moi, j'ai toujours essayé de faire ce lien-là, c'est-à-dire la musique, la pulsion rythmique, dont on a parlé tout à l'heure, au service d'un texte, parce que moi, quand j'écris, j'écris mes textes, et puis après, je fais les musiques parce que les textes inspirent, inspirent les musiques. Donc pour moi, je suis avant tout touché par ça, parce que ça, ça fait vraiment partie de la tradition de la chanson française, l'importance du texte, on raconte des histoires, on exprime des sentiments, on exprime des émotions. Voilà, et ça, c'est vrai qu'il y en a dans la nouvelle génération, où il y a des textes
des
de qualité.
Qui vous touchent. Anissa, une dernière question à Michel Jonas ?
Bah, il y a quand même une chose qu'on ne vous voit pas trop faire, c'est des collaborations, on ne vous voit pas trop faire de duo, justement, avec ces jeunes artistes, alors que ça se fait de plus en plus. Est-ce que c'est parce que vous n'en avez pas du tout envie, ça ne s'est pas présenté ?
Si, j'en ai envie, ça ne s'est pas encore fait, mais...
Ben voilà,
j'ai fait des duos dont j'étais assez fier d'ailleurs, mais c'est vrai que c'était pas avec la nouvelle génération.
Bon.
J'ai fait des duos avec Al Jarreau, le Golden Gate Quartet, avec. Ah non, c'était bien.
On vous a donné une nouvelle idée.
Bon, bah voilà, ça peut être un vrai projet.
Oui, j'y avais pensé déjà.
Ah,
oui,
c'est vrai. Bon, bah très bien. Bah, alors, on l'a remis au goût du jour, ce projet.
Voilà.
Ça, ce morceau-là, toutes les générations le connaissent, donc vous pouvez choisir dans les duos. Ça marche à tous les coups. Merci beaucoup, Michel Jonas.
C'est un morceau qui marche très fort en karaoké aussi.
C'est vrai. La Méouge Le Rhône, la Durance, l'album, Groove, la tournée. Merci beaucoup Michel Jonas
d'être venu chez nous. Merci à vous de m'avoir accueilli.
Émilie Mazoyer, je suis sûre que vous êtes un peu jalouse là, parce que avoir Michel Jonas comme ça, en une demi-heure.
Non mais Michel Jonas me trompe avec une brune.
C'est
bonsoir
dingue.
Michel,
bonsoir,
comment
Fifi.
Ça va?
Ça va?
Vous me manquez
on
trop.
On se connaît. Hein.
Bah oui.
Bah oui, on imagine bien.
Revenez quand vous voulez.
Oui,
hein,
bah je reviendrai.
Émilie, c'est à vous pour ce soir.
Et ce soir, je serai avec Trio.
De nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes,
bien,
de la vie mal.
Vous les aimez bien, Michel?
Ah oui, j'adore. Vachement bien.
Ils fêtent leurs 25 ans. Du coup, ils ont invité plein d'artistes à chanter avec eux leurs chansons. Il y a Renaud, il y a Véronique Sanson, il y a Vianney, Big Flo et Oli, Alain Souchon.
Mince, alors ils m'ont pas invité.
Je vais les engueuler.
C'est mixé là en termes de génération.
Ouais.
J'aurais pu, hein.
Mais bien sûr, vous auriez pu.
Alors.
Quand j'ai vu la setlist, qu'est-ce que je me suis dit? Il manque Michel Jonas.
Oui,
vous étiez occupé. Vous étiez occupé. Vous restez Michel Jonas avec Émilie Mazoyer. Vous allez faire un duo en live. Et Trio, ils seront là avec nous tout à l'heure à 20h30. Et donc Michel Jonas, très bientôt de nouveau dans musique.
Ça, c'est fait. L'invitation est lancée. Vous n'avez plus qu'à accepter. Merci beaucoup Émilie Mazoyer.
Merci.
On est avec vous branchés dans un instant et avec Trio, donc qu'on écoutera. Michel Jonas, merci.
Merci
à nos auditeurs d'être fidèles au Grand Journal du Soir, 18-20 en quotidien. Et puis, très belle soirée à tous. Anissa, on écoute ensemble Le Monde Changé.
Évidemment, tous les soirs à 18h, c'était Nathalie Lévy sur Europe 1.